Et messieurs, bonjour, bienvenue à l'Agora. Je vais introduire rapidement l'après-midi. Donc vous êtes ici à l'Agora, donc la maison des initiatives citoyennes. Si vous ne connaissez pas la maison ici, donc dans ce lieu municipal, vous pouvez trouver un certain nombre de services à la population. C'est un lieu tout d'abord d'échange, de rencontre. Un lieu où les habitants peuvent s'informer, s'exprimer, débattre, comme ça va être le cas aujourd'hui, sur des sujets d'actualité. Vous pouvez également, dans l'après-midi, utiliser les outils Internet, donc accéder aux outils numériques. Il existe également des ateliers pour vous former, pour s'approprier ces outils. Et puis, vous pouvez par ailleurs être accompagné dans le montage de projets, projets associatifs ou des projets à l'international. Donc la ville vous accompagne pour ce type de projet. Sachez que si vous souhaitez organiser une rencontre thématique, vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas à venir ici, à proposer votre rendez-vous. On sera ravis de vous accueillir et de vous accompagner dans le montage de celui-ci. Voilà, donc cet après-midi, nous sommes heureux d'accueillir François Ruffin et Cyril Pocréo. Donc je vais leur laisser la parole pour... introduire l'après-midi. Merci.
Merci. Bonjour à toutes et tous. Il y a des places devant pour ceux qui arrivent juste à l'instant. Merci d'être là. Donc je m'appelle Cyril Pocréo, je suis l'animateur du groupe ATTAC Mont-Valérien, qui regroupe plusieurs villes autour de Nanterre, Suresnes. Merci donc d'être là pour venir entendre François Ruffin une après-midi qu'on a voulu appeler Que faire concrètement contre la finance. On va y revenir. Je vais d'abord vous parler un petit peu d'ATTAC pour les gens qui ne connaissent pas. Il y en a encore, je pense. Vous présenter un peu l'association avant de passer la parole à François. Donc ATTAC, c'est une association qui s'est créée en 98, qui va fêter ses 15 ans cette année, qui est partie sur des thèmes essentiellement axés autour de la finance, comme la taxe Tobin, dont vous avez forcément entendu parler depuis, et qui très vite est partie sur d'autres thématiques, tout en conservant ces thèmes de prédilection. Aujourd'hui, ATTAC regroupe 10 000 adhérents en France. On était 30 000 à une époque, ça a un peu baissé pour diverses raisons. Et ATTAC est présente aussi surtout dans 50 pays. La dimension internationale est assez importante quand on a un objet et des ambitions comme là l'association. Alors ça, c'était pour l'international. Maintenant, plus modestement, au niveau national, ATTAC est organisée en département, en réseaux départementaux. Il y a à peu près 170 comités locaux. Donc, bon, il y a un peu plus de comités que de départements, certes, parce que dans certains départements grands comme les Hauts-de-Seine, on se retrouve avec plusieurs comités. Il y a même des groupes de proximité. Les Hauts-de-Seine, ça a longtemps été et c'est toujours un des très gros départements pour ATTAC. On était un millier à peu près à une époque. Et donc ici, c'est le groupe de proximité du Mont-Valérien. J'en profite parce que je vais oublier après. Il y a la même feuille à l'entrée. Si vous avez envie d'être tenu au courant des manifestations d'ATTAC sur les villes, sur les villes du coin, n'hésitez pas, vous mettez vos coordonnées, votre adresse, ouais, on va la faire passer. Sinon, il y a la même à l'entrée. Vous avez deux tables à l'entrée, une table ATTAC et une table... mise en place par François, avec plein d'informations sur toutes les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi finalement avoir encore besoin d'ATTAC à l'époque où on parle des transactions financières et de taxes et de ce genre de thématiques au niveau de l'Union européenne et du G20. Vous avez suivi l'actualité des deux dernières années, ce sont des thèmes qui sont revenus en force. On continue à se dire à ATTAC que si les thématiques d'ATTAC étaient justifiées et si ATTAC avait raison il y a 15 ans, c'est peut-être que ça vaut encore le coup de se faire entendre et d'écouter ce qu'a à dire l'association. Et puis ensuite, parce que les thèmes d'ATTAC ont évolué, comme je disais tout à l'heure, ils se sont diversifiés. vers la finance, vers l'économie, et qu'en particulier, il y a un des buts de l'association qui nous tient à cœur, qui n'est pas encore atteint. Ce but, c'est l'éducation populaire. ATTAC est une association d'éducation populaire dont l'objectif est de permettre aux citoyens d'acquérir les clés pour se faire leur propre opinion, pour peser sur leur destin, pour réfléchir et pour agir. Aujourd'hui, si tout le monde voit qu'il y a une crise, si tout le monde peut être choqué par ce qui se passe, il faut faire l'effort, il faut encore faire l'effort de comprendre pourquoi, comment on en est arrivé à ces situations-là et quels enjeux il peut y avoir derrière telle ou telle prise de position politique. L'idée, c'est un peu de se réapproprier les thématiques qui sont réservées habituellement à des experts, en tout cas qui nous sont présentées comme telles dans les médias, pour s'en faire sa propre opinion. On s'aperçoit très vite d'ailleurs que c'est finalement assez simple à comprendre. C'est le sens aussi de ce qu'on a voulu initier et de cette réunion aujourd'hui. Donc sur la finance, que faire concrètement contre la finance? Alors déjà, pourquoi la finance? Parce que aujourd'hui, c'est tout simplement la pierre angulaire de tout. C'est la raison qui justifie toutes les politiques auxquelles on assiste actuellement. Ces questions financières, on nous dit souvent qu'il n'y a pas d'alternative et que les choix politiques sont dictés par des impératifs financiers et économiques, que ce sont des exigences et qu'on doit s'y plier. Il y en a peut-être parmi vous qui étaient là en mai dernier, on avait reçu Benjamin Coria, le coprésident des économistes atterrés, qui nous avait expliqué pourquoi est-ce que tout ça était très largement une vaste fumisterie. La financiarisation de la vie et de l'économie, elle résulte avant tout de choix politiques. Ce sont des choix qui ont été pensés, construits. Après, une fois qu'on a dit ça, même si on sent que les choses ne vont pas forcément très bien, on se sent toujours un peu désarmé pour agir concrètement. Et c'est là qu'intervient François Ruffin. parce qu'il fait partie aussi dans ses activités au sens large des gens qui agissent et qui cherchent à non seulement à changer les choses, mais aussi, puisqu'il est journaliste, à rapporter les témoignages des dégâts que peuvent créer certains choix politiques. Alors, je vais le présenter. François Ruffin, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Donc, il est journaliste, je l'ai dit. Il avait commis, dès sa sortie du centre des formations du centre de formation des journalistes, un petit livre qui s'appelait « Les petits soldats du journalisme ». Ça commençait bien. Et puis, alors, il a écrit d'autres livres depuis. Le plus récent, c'est « Leur grande trouille, journal de mes tentations protectionnistes ». C'est ça que vous avez à l'entrée, si ça vous intéresse. Et puis donc, journaliste, Le Monde Diplo, là-bas, si j'y suis, l'excellente émission de Daniel Mermet sur France Inter. Et Fakir, l'excellentissime journal Fakir, que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie, qui est en kiosque. Donc n'hésitez pas à le demander à vos... vous verrez Fakir, il y a plein de numéros aussi à l'entrée. Donc des enquêtes sociales, du travail de terrain, plein de choses. Et puis c'est de ces expériences de terrain aussi, je pense, que sont venues à François des idées assez concrètes et une vision assez fine de la situation. Donc, je vais lui laisser la parole, j'ai déjà trop parlé. Je vais lui laisser la parole, il va parler. On va avoir un petit exposé de, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, évidemment, parce que c'est l'objectif aussi, on va débattre, on va parler, on va s'engueuler peut-être. Après, on va tous se réconcilier avec une galette des rois qui est dans la voiture, mais il y en a plusieurs, hein, je vous rassure. J'irai la chercher et puis voilà, on boira un coup en fin d'après-midi. Voilà, je vous ai déjà parlé des mails. Je veux saluer aussi les. On a quelques élus, je crois, dans la salle de Nanterre ou de Rueil d'ailleurs, que je tiens à saluer. Je n'ai pas vu tout le monde, donc je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier sinon. Et voilà, et je passe la parole à François.
Bonjour. Alors, mes premiers mots, ça sera pour remercier. Parce que vous savez, quand on a la chance de venir présenter en public ces idées, c'est que... Il y a un travail invisible qui s'est effectué dans l'ombre, ne serait-ce que de réserver une salle, de distribuer des tracts, d'envoyer des mails, et tout ce travail-là, et qui permet que les idées circulent par d'autres, encore par d'autres canaux de communication que les grands médias. Donc ça, c'était ma petite introduction. Ensuite, quand j'ai eu Cyril au téléphone, il m'a dit que ça serait mieux que j'aie un film, parce qu'il craignait que si je parlais trop longtemps, vous vous ennuyiez. Donc j'ai amené un film là, d'une dizaine de minutes qu'on avait réalisé il y a à peu près un an. Le 8 mars 2012, était sorti ce papier qui s'intitule « François Hollande and France's labor market rigidity, the market will rock balls ». Donc François Hollande et la rigidité du marché du travail, le marché va secouer les deux. C'est un papier qui était publié par une société de courtage qui conseillait plein de fonds de pension américains, de fonds d'investissement et de fonds de pension américains, aux alentours de 1200, je crois, 1200 fonds de pension qui étaient conseillés par cette société. Et donc, l'un des responsables en France de cette société qui s'appelle Nicolas Doisy, publiait un papier où il expliquait que voilà, François Hollande, qu'il le veuille ou non, allait devoir réformer le marché du travail. Alors, c'est très approprié de vous présenter ça aujourd'hui, puisque hier soir était signé un accord qui déjudiciarise le licenciement, qui permet que le licenciement se passe d'une manière, on réforme le licenciement de manière à ce qu'il se passe plus, de manière plus acceptable pour le patronat. Donc voilà, je suis venu avec un petit film, je crois qu'il fait une dizaine de minutes, qu'on avait réalisé l'an dernier. Voilà.
Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. Avec des bureaux à travers le monde, à Boston, San Francisco, New York, Tokyo, Zurich, Madrid, Athènes. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève, en anglais, de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux.
Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir, qu'on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent « mais où est le programme ?» Je leur dis « mais il n'y en a pas et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie et en fait, on le connaît déjà. » Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant. On le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés.
C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous vous dites, non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus,
C'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée.
Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire. Parce que tout simplement, la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réforme. L'Italie, l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui. La Grèce aussi. En quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement un nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs français.
Juste une question qui me vient comme ça. Vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Loisy?
Je suis en CDI, bien évidemment. Voilà.
La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail.
François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. François Hollande, il va avoir à naviguer à travers des forces dans la gauche, notamment à cause du référendum manqué de 2005. Et dans cette perspective, vous écrivez « Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français, pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes convenables, dont celle du marché du travail.
Alors, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais préciser un point. Les gens de marché s'expriment de façon très directe. Donc, le vocabulaire que j'ai pu choisir dans la citation que vous venez de lire paraîtra peut-être excessif à beaucoup de vos auditeurs. Maintenant, c'est vrai que voilà, on s'embarrasse pas de dans les marchés, on va pas s'embarrasser de financerie, on va aller directement au point. Donc, de rouler les électeurs français, c'est peut-être un mot quand même excessif. L'idée, c'est de dire, ce sera une concession en quelque sorte de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français entre guillemets. De façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles que tout le monde, dont personne ne va entendre.
Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance, les autres Européens, ils vont faire comme si, ah bon, bah d'accord, allez, on t'accorde ça, il rentre ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu, et du coup, il peut dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail.
Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. C'est une petite mise en scène, c'est un petit théâtre. Alors, il ne faut pas avoir l'impression que je fais de la théorie du complot là, et qu'on manipule tout le monde. Le script est un peu écrit. Si on est malin, on ne s'écartera pas trop du script. Et de cette façon-là, on arrivera peut-être à faire passer la pilule de façon un peu plus simple que ça n'avait été le cas au début des années 80. On s'évitera peut-être finalement d'être un peu ridiculisé comme on l'avait été à l'époque.
La pression des marchés devrait être une incitation suffisamment puissante pour que François Hollande évite de jouer à des jeux stupides.
Maintenant, il y a un danger qui se présente. C'est la semaine qui vient de s'écouler, en particulier le week-end qui vient de s'écouler. On voit que Mélenchon est vraiment en phase ascendante. On a bien entendu ce week-end François Hollande qui dit « Oui, croyez-moi, ça va être du sérieux ma renégociation du traité ». Et bien sûr, il est bien obligé parce qu'avant de gagner le deuxième tour, ceux qui ont connu 2002 savent qu'il faut gagner le premier. Et quand on voit la montée en puissance de Mélenchon, ce qu'on se dit tout simplement, c'est qu'à partir de maintenant, il va bien falloir que Hollande commence à donner quelques gages à sa gauche. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour lui. Parce que les marchés vont commencer à comprendre, vont commencer à le sentir. C'est ça que je veux dire, c'est que le marché ne laissera pas passer de toute façon.
Alors, je faisais un récapitulatif. Je disais, cas numéro 1, François Hollande est conciliant et il revient de lui-même sur ses maigres promesses de campagne. Il libère le marché du travail. Il en finit avec le CDI tel qu'on le connaît. Cas numéro 2, il lui faut une petite pression de ses partenaires européens, une petite concession qui lui serve de prétexte et derrière, il libéralise le marché du travail. Cas numéro 3, le pire mais pas le plus probable, vous nous dites,
Il refuse de se plier à ce programme, à cette injonction, et alors les marchés vont le punir, le rappeler sérieusement à l'ordre. C'est bien ça ?
Oui.
Donc là, jusque-là, dans les trois cas, c'est toujours les marchés. Quand vous dites soit les électeurs, soit les marchés seront déçus, dans les trois cas, c'est toujours les électeurs qui seront déçus et les marchés qui gagnent.
Oui, oui. Ben, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, au sens moral du terme. En tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Donc c'est de ce point de vue-là que je le dis, oui, en effet. Vous avez raison, les électeurs risquent d'être plus perdants que les marchés. Je ne sais pas où vous m'emmenez, en fait.
Je propose un quatrième cas. Je propose un quatrième cas. L'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Hier à Paris,
la prise de la Bastille.
Pardon ?
La prise de la Bastille numéro 2.
Hier à Paris, il y avait, bon, on ne va pas chipoter, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 manifestants à l'appel du Front de Gauche. Si, comme en 1936, on avait une élection qui était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves.
Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Ben là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. Hein. On va être très clair, ça va être le gros coup d'angoisse parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France.
La première chose, les personnes qui sont derrière, qui veulent, moi je ne vais pas me mettre debout pour parler, donc si vous voulez venir ici avec votre chaise, il reste encore pas mal d'espace sur le devant, il n'y a pas de problème pour qu'il y ait un mouvement de foule de derrière, ça ne devrait pas se transformer en un Ezel bis, quoi. Donc voilà, c'est la première chose. Donc je vous disais, ça a été fait il y a un peu moins d'un an, il y a 10 mois à peu près, c'était le 20 mars, donc je crois que la manif de Mélenchon, c'était le 19, il me semble, à Bastille, donc ça devait être le lendemain. On peut faire le bilan un peu moins d'un an après. Le traité, il a été signé à la virgule près, il ne va pas être très encourageant, hein, le bilan, je vous préviens. La flexibilité, pour moi, elle s'est largement imposée cette nuit, enfin hier soir. Ce qui vaut à Libération de décerner la médaille du travail à François Hollande, quoi. L'austérité, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est apparu à la tribune de l'Assemblée nationale dans son grand discours en disant que ça serait le plus grand effort qu'on aurait à faire depuis l'après-guerre. Et c'est bizarre, mais ce sont des très grands efforts qu'on est fiers de faire et de refaire. Et la modération salariale, elle est là, puisqu'il n'y a pas de coup de pouce au SMIC, par exemple. Ça augmente de 3 centimes d'euros de l'heure en janvier. Donc voilà, on a là, il me semble que les prédictions de Nicolas Doisy, ce sont quand même assez, c'est pas Nostradamus, mais ce sont quand même assez largement vérifiées. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, des Doisy, ce n'est pas une exception. Le truc exceptionnel, c'est qu'il le publie et c'est qu'il parle. Mais des Doisy, il y en a toute une cohorte et il y en a par milliers. La Banque Centrale Européenne, ça fait des années qu'elle raconte à peu près ce que raconte Nicolas Doisy. Moi, je suis allé à Bruxelles juste avant les vacances de Noël pour un séminaire sur l'union bancaire au Parlement. La Commission répète à peu près la même chose. Il y a les agences de notation, il y a les médias. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport de la mission FMI sur la France qui est paru en novembre, et ben c'était la même chose qui nous était racontée, c'est qu'il fallait de la modération salariale, de la flexibilité du marché du travail et ainsi de suite. Donc on a un discours tout à fait monolithique. Par exemple, on peut citer... merde, j'ai pas pris mon papier. Deux secondes. On peut citer Nicolas Bavrez et compagnie. Où est-ce que j'ai mis mon papier ? Pardon ? Ah non, j'aime bien citer dans le texte. Vous savez, c'est toujours citer Doisy dans le texte, c'est quand même valorisant pour nous. Hein. Attendez, parce que j'ai travaillé dans le train et j'ai mis le truc à part. Mince. Non, il y a quand même une petite crainte, disons. Allez. Là, on a... Donc ça, c'est... Dans le discours des médias, on a « il n'y a pas d'alternative au désendettement de l'État », Nicolas Bavrez. « Avons-nous d'autres choix qu'une certaine forme de rigueur ?» Stéphane Paoli. « Il est des réformes incontournables sur lesquelles il ne devrait pas y avoir de débat », le cercle des économistes. On a ce genre de discours monolithique qui est déversé par toute une série d'institutions et qui fait que sortir de ce cadre-là réclame du courage, réclame de l'audace en politique. Alors, en revanche, s'y couler, comme le font aujourd'hui les dirigeants socialistes, c'est juste la norme. Ça ne réclame pas de courage, ça ne réclame pas non plus une lâcheté particulière, mais ça, c'est juste dans l'ordre des choses. Tandis que sortir de ce discours qui est déjà préconstruit, prémâché, et qui est d'une puissance d'encadrement considérable, réclame de l'audace. Alors pourquoi il y a ce discours et pourquoi, en ce moment, à mon avis, il est d'autant plus puissant depuis quelques années. Pourquoi, en fait, par les Bavrez, les Paoli et compagnie, on cherche à nous instiller de manière quasiment quotidienne le poison de la résignation. À mon avis, c'est qu'on se situe à... Enfin, la crise nous a situés à un moment de l'histoire qui était particulier. Dans un premier temps, si je découpe, je propose ce découpage-là, avant la crise, l'objectif pour eux, ils avaient réussi à fermer le champ des possibles. Qu'est-ce que c'était ? C'était le traité de Maastricht de 1992 où Alain Madelin se félicitait qu'on interdise, que ça permette d'interdire toute expérience socialiste, de nature socialiste. Vous voyez, donc là, c'est tranquille. En 2005, quelle est l'expression qui revient ? Il s'agit de graver le libéralisme dans le marbre. C'est la fin de l'histoire. On est dans ce cadre-là. Et jusque-là, ils sont gagnés. Ils se sentent sereins et tranquilles. Surviennent deux choses, à mon avis, c'est pour dire que ça branle un peu dans le manche. La première chose, c'est le vote de 2005, où ils savent là ce que pense le peuple en réalité, en tout cas le peuple français, mais le peuple hollandais aussi, éventuellement le peuple irlandais. Mais sur le fond, il y a eu un certain nombre de référendums, et ils savent qu'aujourd'hui, ils repasseraient le même texte, ça ne serait plus à 55%, mais on les dépasserait très très largement. Donc là, il y a déjà un désaveu populaire qui existent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas continuer à faire fonctionner leur machine, mais enfin, ils ont la conscience de ça. Et la deuxième chose qui arrive, c'est la crise. Qu'est-ce que produit la crise, notamment le sauvetage des banques ? Ça fait qu'ils vont être obligés de s'asseoir sur leurs propres critères. Les critères, c'est quoi ? C'est les critères inscrits dans le traité de Maastricht, c'est 3% de déficit, voilà. Avec le sauvetage des banques, avec la crise, on passe dans tous les pays à au moins deux fois plus, on a entre 6 et 8%, y compris en Allemagne. C'est le déficit, la dette publique cumulée qui, dans le traité de Maastricht, ne doit pas dépasser 60%. Dans tous les pays européens, on dépasse 80%, y compris en Allemagne. Donc, vous voyez, ils ont été amenés, c'est comme si la rivière avait débordé de son lit, et comme s'ils l'avaient fait eux-mêmes déborder du lit qu'ils avaient fixé, puisque c'est pour sauver les banques, ils ont eux-mêmes dit, bon, bah, ces critères-là, en tout cas, pendant un moment, on s'en fiche. Donc toute la question après ça, pour eux, c'était comment faire pour qu'on ne se dise pas, bah, au point où on en est, puisqu'on s'est assis dessus, pourquoi on ne continuerait pas comme ça ? Vous voyez ? Pourquoi on n'essayerait pas autre chose ? Pourquoi on ne renouerait pas avec des expériences ? Donc là, je pense que sur le plan idéologique, il y a une bataille très intense qui a été menée depuis quelques années pour faire rentrer la rivière dans son lit, pour faire rentrer les esprits dans le renoncement. C'est dans les discours, c'est les discours de Bavrez et compagnie que je vous citais, c'est dans les traités. Pour moi, le traité Sarkozy-Merkel, c'est quasiment, pour l'essentiel, c'est le traité de Maastricht. Mais il s'agit de venir réaffirmer, il faut qu'on vienne réaffirmer, reposer que la norme, ce sont bien les critères de Maastricht. Et puis c'est dans les faits, quand l'austérité s'impose partout en Europe et qu'il est interdit de chercher d'autres solutions. Donc voilà, pendant toutes ces années, on a l'installation d'un renoncement dans les esprits, qu'on ne dise pas, bah, tant qu'à faire, on va tenter des expériences. Et je ne parle pas que de l'expérience socialiste, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a, on a un devoir d'expérience. Et c'est ce dont je voudrais vous parler. Le titre, ça pourrait être « Ouvrir l'imaginaire économique de ça ». C'est-à-dire, sur les dettes, j'y reviendrai plus longuement, mais on pourrait se dire, bon, bah, au point où on en est, continuons comme ça. Où est le problème ? On ne les règle pas, j'y reviendrai. La BCE, la Banque Centrale Européenne, il y a un certain nombre de questions qui pourraient se poser. Pourquoi elle est indépendante ? Les taxes sur les frontières ? Bon, toutes ces questions-là, il fallait blinder le discours idéologique pour qu'elles ne se posent pas. Et donc, je pense que face à leur fermeture, à la fermeture qu'ils veulent imposer à nos esprits, la première mission qu'on a, c'est de rouvrir notre imaginaire économique, se dire que si, c'est possible. Il y a des solutions qui existent ailleurs ou qui ont existé ailleurs dans l'histoire. Alors, je voudrais évoquer quelques pistes. Sur la dette, La dette, c'est grosso modo qu'un problème de plomberie. Il y a une fuite, bon, bah, il faut régler l'histoire de la fuite, et puis c'est tout. C'est pas du tout un gros problème. Maintenant, pour rouvrir l'imaginaire économique, il y a deux solutions. Soit on regarde ailleurs ce qui se fait, on peut regarder en Islande, on peut regarder en Argentine, on peut regarder en Équateur. Si vous voulez, je reviendrai dans le prochain numéro de Faki, on revient sur tous les pays qui ont mis les bons élèves, les faillots de la classe, qui ont mis en place les réformes du FMI, puisque le FMI est en train de s'installer en Europe, y compris en France, trace l'agenda du gouvernement. Bon, on a regardé un peu pour la suite tous les pays qui ont été les faillots du FMI, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ça a été des catastrophes successives, et qu'est-ce que c'est les cancres du FMI? Ben, les cancres du FMI survivent. Bon, donc c'est la première solution, c'est d'aller regarder l'Islande, l'Équateur, la Malaisie, même, vous voyez, des expériences qu'on connaît un peu moins, qu'est-ce qu'ils ont fait? La deuxième solution, et moi je suis meilleur pour ça, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui s'est fait dans le passé, qu'est-ce qui s'est fait y compris dans notre passé. Se dire que ce qui est n'a pas toujours été, ça veut dire que ce qui est pourrait aussi être autrement aujourd'hui. Alors, sur la dette, on a mené, j'étais tombé sur un extrait de, j'ai lu un bouquin sur Philippe le Bel. En 1307, comment Philippe le Bel règle ses dettes? Philippe le Bel a beaucoup de dettes, notamment, alors il va utiliser d'autres méthodes, il va utiliser la dévaluation aussi, hein, il va introduire moins, il y aura moins d'or dans les pièces et ainsi de suite, ça va être sa première méthode. Ensuite il va faire récupérer la vaisselle chez les riches, il passe chez les riches et il récupère la vaisselle pour pouvoir fondre de l'or et fabriquer des pièces, c'est la deuxième méthode. Et puis à un moment il est très endetté, notamment à l'égard d'un ordre qui s'appelle les Templiers, qui étaient en fait les banquiers de l'Occident, puisqu'ils avaient la capacité, à travers leurs différents châteaux, de véhiculer l'or de Jérusalem jusqu'à Paris. Donc c'est eux qui gardaient le trésor royal, et ainsi de suite. Ils avaient des grands domaines. En plus, c'était un ordre un peu décadent qui périclitait depuis qu'il n'y avait plus la perspective d'une nouvelle croisade. Qu'est-ce qu'il dit Philippe le Bel? Et il le pense, hein, il faut être honnête. Il le pense, il dit, ce sont des hérétiques, ils ont des pratiques hérétiques, on leur demande de cracher sur la croix, ils pratiquent la sodomie et tout ça, c'est absolument intolérable. Bon, et sans doute qu'il en est convaincu, mais par ailleurs, il a un intérêt très matériel à faire ça, puisque en arrêtant les Templiers, en brûlant leur chef, ils se libèrent d'un certain nombre de dettes. Vous voyez, donc ça a été une manière assez radicale, mais assez efficace aussi, de régler la crise de la dette. Il y a eu d'autres méthodes. On peut parler par la suite de Henri III. Henri III, il y a une grave crise qui se produit en Espagne, vous voyez. Et là, paf, 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 on a comme les dominos de l'Europe, pareil, les dominos de l'euro. On a un certain nombre de villes en Italie, on a l'Allemagne et tout ça, qui tombent à la suite de la banqueroute espagnole. Bon, là, Henri III, à la limite, qui est très endetté, il aurait pu déclarer banqueroute. Il est encore plus malin. Il renverse l'argument du « too big to fail ». Too big to fail, là, maintenant, c'est les banques. Vous savez, il faut les sauver, parce que si on ne sauve pas les grandes banques, c'est nous qui allons nous écrouler. Ben, Henri III, il fait l'inverse. Il dit « moi, je suis trop gros pour m'écrouler ». Donc, les banques qui m'ont beaucoup prêté, si elles ne veulent pas tout perdre, eh ben, il faut qu'elles me prêtent encore davantage. Vous voyez ? Donc, il récupère encore plus d'argent. Il est endetté quand il disparaît. Il est endetté à mort, mais il n'en a rien à faire. C'est les générations futures qui se débrouilleront avec ça. Comment se débrouillent les générations futures? Son fils et son petit-fils, il me semble. Eh ben, par exemple, ils instaurent une loterie. Et il n'y aura qu'un créancier sur trois qui sera remboursé. Et ça se fera par tirage au sort. Vous voyez? C'est véridique tout ça. Hein, c'est pas de la fumisterie. Et ça s'est produit. Sully, vous savez, il y a un grand nombre de noms dans l'histoire de France. Sully, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait quand il arrive aux finances sous Henri IV, alors que la France a été ravagée par les guerres de religion et ainsi de suite, c'est quoi? Ben, c'est de dire, on va faire une banqueroute. On fait une banqueroute. Alors, il n'y a aucune banqueroute qui n'a été totale. Il faut préciser ça. Moi, je dis vive la banqueroute. Je pense que la banqueroute, c'est un instrument qu'on doit se réapproprier, qu'on doit repenser. Il n'y a aucune banqueroute. Si on en arrivait dans la situation de l'Espagne ou de la Grèce, il vaudrait mieux que les esprits soient déjà mûrs, prêts à assumer une banqueroute, plutôt que la laisser faire avec retard par le FMI ou la Banque Centrale Européenne. Donc, Sully, quand il arrive aux affaires, il décide de faire une banqueroute. Ce n'est pas une banqueroute totale, il choisit un certain type de dette, il fait un audit public de la dette, d'ailleurs. C'est la première chose qu'il fait en arrivant, c'est ce que Attac réclame. Il fait un audit public de la dette. Bon. Ensuite, il décide de ne pas régler un certain nombre de créances, notamment, par exemple, vis-à-vis des mercenaires suisses, vis-à-vis d'un certain nombre de villes, vis-à-vis des rentiers. Bon, tout ça, il liquide. Et il arrive comme ça à rétablir les finances royales de manière... En 4-5 ans, les finances royales sont rétablies, notamment grâce à cette pratique-là. Colbert, qui est un grand nom, Mazarin, un grand nom de l'histoire de France, tente une banqueroute et la réussit partiellement. Colbert aussi. Bon, on a comme ça toute une série de banqueroutes. À tel point que je lisais, donc c'est un ancien chief économiste du FMI, Kenneth Rogoff, qui écrit dans un livre qui s'appelle « Cette fois, c'est différent ». Entre 1500 et 1800, la France a répudié cette dette en 8 occasions. Comme les rois de France avaient pris l'habitude de mettre à mort les grands créanciers nationaux, une forme ancienne et radicale de restructuration de la dette, le peuple avait fini par appeler ces épisodes des saignées. Vous voyez ? Donc il dit que grosso modo, bah, c'est une formule efficace qui a marché. Par ailleurs, Kenneth Rogoff montre que depuis 1800, il y a eu dans le monde 250 défauts de paiement, 250 banqueroutes, et que bon, les pays ont continué à survivre. Donc finalement, c'est un instrument qui existe. Mais qu'est-ce qui a été dans l'histoire ? Dans le monde, dans le monde. Ça, vous l'avez, je vais l'avoir dans un fakir à la sortie. Mais qu'est-ce qui a été la Révolution française ? La Révolution française, sur le terrain matériel, ça a été autre chose, sur le terrain politique ou spirituel, mais la Révolution française, c'était le règlement d'une crise de la dette. Entre 1777 et 1783, la France va aider les Américains, enfin, ceux qui vont devenir les Américains, les colons, à se libérer de la tutelle anglaise avec notamment Lafayette et puis tout ça. On en sort victorieux, Lafayette a fait le malin, c'est super, mais on est hyper endetté. À tel point qu'en 1788, 50% des rentrées fiscales sont immédiatement reversées au service de la dette, servent à payer les créanciers. Bon, là arrive la Révolution française. C'est un phénomène mineur. Le phénomène majeur, c'est vraiment... en tout cas, quand on lit Jaurès, ma référence sur la Révolution française, c'est l'histoire socialiste de la Révolution française par Jaurès. Là, il y a un énorme problème de la dette qui aurait pu se régler autrement en d'autres périodes de l'histoire. Le roi aurait pu décider d'une banqueroute quasiment tout seul, et ainsi de suite. Là, il se trouve que la bourgeoisie est devenue suffisamment forte pour qu'il faille négocier avec elle. Donc, on convoque les États généraux, tout ça, vous connaissez, la nuit du 4 août, le 14 juillet, je vous en passe. Mais toujours est-il qu'à l'automne 1789, le problème n'est pas réglé, il est même encore quasiment plus important. Et là, qu'est-ce qui est proposé ? Et c'est un évêque qui le propose. Il propose, c'est Talleyrand, qui dit « Le clergé n'est pas un propriétaire à l'instar des autres propriétaires. » Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que propose Talleyrand ? C'est une confiscation, pas de tous les biens de l'Église, mais d'un certain nombre de biens de l'Église. Moi, je ne dis pas une nationalisation, parce qu'en fait, c'est quasiment une privatisation, ce qui se passe. On rachète les biens de l'Église, mais on les revend, et on les revend notamment à la bourgeoisie, qui, d'une part, donc, n'a pas eu la banqueroute à subir sur ses rentes, et d'autre part, va pouvoir, au contraire, s'enrichir. Mais ça attache la bourgeoisie à la Révolution française, bon, voilà. Et donc, c'est par ce biais-là, c'est par la confiscation des biens de l'Église qu'on résout, à ce moment-là, très largement le problème de la dette. Ensuite, il va y avoir la confiscation des biens des immigrés. Et c'est ainsi que... Bon, alors, moi, je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a à confisquer ? Vous voyez ? Alors, là, Talleyrand est habile, ils sont tous habiles. C'est un paquet de juristes là-dedans qui disent, finalement, ce sont des biens illégitimes parce que le clergé, il a reçu ça, mais ce n'était pas vraiment pour lui, c'était pour le service des pauvres. Le service des pauvres sera mieux rendu par la nation. Donc, finalement, on peut confisquer les biens de l'Église. Vous voyez ? Quand on cherche à faire quelque chose, on trouve toujours moyen de tordre le droit. Bon, aujourd'hui, quels sont les biens qui, pour reprendre la formule de Talleyrand, peuvent paraître illégitimes ? Bon, ben, y a un certain nombre de concessions, d'autoroutes, de gaz, d'électricité, et ainsi de suite. Donc, on peut se considérer qu'ils sont le bien de la nation, que le service serait mieux rendu par la nation, et ainsi de suite, et dont on pourrait populariser l'idée qu'il y a une manière de régler la dette, ça serait de reprendre ça en service national. Bon, ça, c'était le premier point, rouvrir l'imaginaire économique sur le terrain de la dette. Toujours sur ce terrain-là, éventuellement, mais lié à autre chose, comment est réglée la dette après la Première Guerre mondiale ? Après la Première Guerre mondiale, la France est donc hyper endettée. Les guerres sont toujours un aggravateur de l'endettement. Que décide Herriot arrive au pouvoir, il fait rien. Herriot, donc, c'est le cartel des gauches en 1924. Jusqu'alors, on a répété l'Allemagne payera, l'Allemagne payera, l'Allemagne payera. Mais l'Allemagne ne paye pas. On espère que la dette va être réglée de cette manière-là, mais ça ne marche pas. Bon, Herriot arrive aux affaires, il ne fait rien. Derrière, qui va faire quelque chose ? C'est Raymond Poincaré. Vous voyez mes héros un peu. Sully, Talleyrand, Raymond Poincaré. Que des révolutionnaires, quoi. Bon, Henri III, bon. Raymond Poincaré, qu'est-ce qu'il décide ? il décide une dévaluation du franc de 80%. Ça veut dire qu'il va néanmoins être appelé le sauveur du franc. Il décide que d'un seul coup, le franc vaut 4 cinquièmes de moins. Vous voyez ? Et là, évidemment, les dettes à l'égard des rentiers français, ils sont automatiquement diminués des 4 cinquièmes. C'est pas rien. Et voilà, c'est la manière que trouve Raymond Poincaré, un homme de droite, hein, un conservateur, mais parce qu'il est dos au mur, de régler le problème de la dette. C'est en 1927, il me semble. Et là se pose la question, une question très importante. S'il peut le faire, c'est parce qu'il a un poids sur la valeur de la monnaie. Se pose la question, qui est quand même la question centrale posée par Doisy, c'est de notre capacité à jouer sur la monnaie, à jouer sur l'euro. Je veux dire que dans l'histoire de la gauche, vous connaissez l'histoire de la Commune et de la Banque de France. Non, en 1871, les communards sont dans Paris. Ils sont devant la Banque de France et tout ça, mais ils ne rentrent pas à l'intérieur, ils ne viennent pas chercher l'or, ils n'osent pas donner d'ordre à la Banque de France. Que font les banquiers de la Banque de France? Ils font sortir l'or, ils l'amènent à Versailles, et l'or de la Banque de France va servir à écraser les communards. Ça dit une certaine timidité éventuellement de la gauche face à la finance. En 1924, cette timidité est reproduite avec Herriot, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, qui lui n'a pas fait la dévaluation que Raymond Poincaré fera. Et on en arrive petit à petit à une conscience. Là, Herriot se met à parler des 200 familles qui dirigent la France, qui dirigent la Banque de France. Et donc, à ce moment-là, en 1936, il y a une nationalisation partielle de la Banque de France. C'est une histoire assez douloureuse pour la gauche que sa capacité à faire que la monnaie soit politiquement utilisée, soit socialement et politiquement utilisée. Ça naît en 1936, c'est confirmé en 1945, et il faut voir que cet héritage-là, qui est un héritage dur, va être complètement abandonné en 92-93, avec le lancement de la monnaie unique et de l'euro. Donc je pense que, normalement, dans un contexte de crise, il doit se poser la question, sinon de l'appartenance de la France à la zone euro, mais au moins, très largement, de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, parce que là, la Banque Centrale Européenne mène une politique qui est très favorable aux rentiers, anti-inflationniste, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut absolument mener bataille. Le dernier point qui me tient à cœur, c'est celui du protectionnisme. Alors, je vais vous la faire très bref, parce que sur cette question, je peux faire une heure et demie, ou plus. Juste, moi je viens de la Somme, je viens d'Amiens là aujourd'hui. Dans ma région, donc, j'ai eu à suivre des plans sociaux de manière quasiment mensuelle, dans les entreprises, notamment de la zone industrielle d'Amiens. Là, j'ai simplement deux tableaux. J'ai un tableau qui est celui des 30 plus grands établissements de la Somme au 31 décembre 1996. En 1996, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, on avait dans la Somme 15 industries dans les 30 plus grands établissements. Alors le premier, c'était quand même l'hôpital, le deuxième, c'était la commune d'Amiens, le troisième, Goodyear, ensuite on avait Léo, ainsi de suite. Sur les 30 plus grands établissements de la Somme en 1996, il y avait donc la moitié, 15, qui étaient des industries. 12 ans plus tard, on est en 2008, donc c'est pas très long quand même, 12 ans à l'échelle de l'histoire, au 31 décembre 2008, il en reste 7. Sur les 15, 8 ont disparu. Ça veut dire que, et ce sont souvent ces grosses boîtes-là, ce sont celles qui structurent l'emploi dans les classes populaires. Donc ça veut dire que dans ma région, les classes populaires, dans mon département, ont eu à subir un choc sur le terrain de l'emploi en une dizaine ou une vingtaine d'années, si on prend même depuis le milieu des années 80, qui a été considérable. Bon, pour moi, il y a une raison simple et une raison qui est finalement annoncée par tous les dirigeants, et je vais vous citer. Moi, je préfère citer mes adversaires que mes amis. Vous voyez, je préfère faire une interview avec Nicolas Doisy qu'avec un responsable de Solidaire. Pas parce que j'aime pas le responsable de Solidaire, mais parce que je trouve ça plus frappant au fond d'avoir l'adversaire qui s'exprime sur. Bon, donc je vais simplement vous. L'adversaire nous dit comment il est parvenu à avoir cette série de victoires sur un certain nombre de terrains. Le terrain industriel, le terrain fiscal et éventuellement le terrain écologique. Je citerai Bernard Arnault, donc, qui est notre héros. Vous avez vu qu'on l'a nommé Prédateur du Nord avec une image digne du nouveau détective qu'on veut devenir. Donc Bernard Arnault dit quoi ? C'est dans la passion créative. Les entreprises, surtout internationales, ont des moyens de plus en plus vastes et elles ont acquis en Europe la capacité de jouer la concurrence entre les États. L'impact réel des hommes politiques sur la vie économique d'un pays est de plus en plus limité. Et il conclut lui-même, heureusement. Il poursuit, nous évoluons dans un système beaucoup plus mobile qu'il y a une quinzaine d'années. Face à cela, que peuvent faire les États ? Il leur est pratiquement impossible de s'opposer à une mobilité des entreprises à travers l'Europe. Vous voyez, là, il y a chez Bernard Arnault une très forte conscience de classe, qui est une conscience des profits qu'il peut tirer du libre-échange. Il n'est pas le seul. Donc ça, c'est sur le terrain industriel, on va dire, avec la modération salariale, la baisse du coût du travail, ainsi de suite. On va avoir son livre « La passion est créative » est coécrit avec Yves Messavrovitch, qui est donc un journaliste du Figaro Magazine, bien sous tout rapport. Et Yves Messavrovitch écrit ceci dans le Figaro Magazine. « Là où la fiscalité pénalise l'économie, la concurrence intra-européenne exercera une pression telle que nos futurs gouvernements devront renoncer à quelques aberrations qui alimentent d'importantes sorties de capitaux. Citons-en trois, l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les bénéfices des entreprises et l'étrange supérieure de l'impôt sur le revenu. » Alors là, on est en plein dans le débat d'aujourd'hui, puisque l'impôt sur le revenu, vous avez vu que dès qu'on veut l'élever un peu, et on est encore très loin des taux d'imposition qui se pratiquaient sous De Gaulle, Pompidou ou ce révolutionnaire de Giscard d'Estaing, ou sous Roosevelt, Roosevelt, le taux marginal de l'impôt sur le revenu est à 90%. Bon, et les États-Unis sont quand même restés un pays capitaliste, a priori. Mais bon, là, aujourd'hui, on voit que ça hurle du côté des vedettes du patronat et des vedettes des arts, et qu'ils ont effectivement la possibilité de jouer la concurrence intra-européenne en allant, ou extra-européenne même, en allant chercher refuge en Russie, et ainsi de suite. Le point qui me paraît le plus intéressant, ce sont les bénéfices des entreprises. Parce qu'en fait, c'est l'impôt le plus important, qui n'est pas que symbolique, mais qui est très important. Au milieu des années 80, l'impôt sur les sociétés, il est de 50% en France. Aujourd'hui, le taux affiché est de 33%. Donc on a déjà, en passant de 50 à 33, ce sont des milliards qui ne sont plus récoltés. Mais en plus, ça c'est pour ce qui est du taux affiché. Le taux réel, il est de 9% pour les entreprises du CAC 40, de 12% pour les multinationales, et il est de 30% pour les PME. Alors on va dire, mais vraiment la vie est trop injuste, comment ça se fait que c'est les PME qui payent plus que les multinationales? Simplement parce que les PME n'ont pas la possibilité de jouer de la même manière sur la concurrence fiscale entre les États. EADS, sur lequel j'avais mené une très longue enquête, avant même que ça soit fondé par Jospin et comment il s'appelait le chancelier allemand, Schröder, en 98-99, ils ont déjà prévu d'installer leur siège social, la coquille vide existe déjà, à Amsterdam, aux Pays-Bas, parce que là-bas, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Avant même que la fusion n'existe, ne soit validée par les politiques, ils ont déjà créé cette coquille vide. Bon, et là, on se retrouve sur tout un glissement de la fiscalité aujourd'hui, qui est ce que les fiscalistes appellent des bases mobiles vers les bases immobiles. Qu'est-ce que c'est qu'une base mobile? Les capitaux, c'est ce qu'il y a de plus mobile. Ça peut partir. Donc c'est très difficile à taxer. Ce qui est un peu moins mobile, mais qui reste mobile quand même, ce sont les entreprises. Donc on peut les taxer, mais pas trop, sinon, bon voilà, donc on supprime la taxe professionnelle et ainsi de suite. Bon. Et qu'est-ce qui est le plus immobile? C'est vous. C'est moi. Moi, j'ai deux gamins, j'habite à Amiens, j'ai mes copains qui sont là-bas et ainsi de suite. Je me dis, putain, pour me délocaliser, même si c'est mieux au Portugal, ça va quand même être compliqué, vous voyez. Donc je reste. Il n'y a pas de risque que je parte, moi. Donc on peut augmenter ma TVA et mes impôts locaux. Et c'est comme ça que la fiscalité, le déplacement de la fiscalité, il se fait parce que, c'est le libre-échange qui fait qu'il y a un déplacement du rapport de force qui fait qu'on taxe davantage les bases immobiles au profit des bases mobiles. Et le dernier point, il n'est pas négligeable, c'est l'environnement. On a Gary Becker, donc qui est un peu l'équivalent de Yves Messavrovitch, qui écrivait dans Business Week. On est en 1993. 1993, c'est le moment où, aux États-Unis, se fonde l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. C'est le moment des histoires parallèles, puisqu'en France, c'est le moment où se fait l'Europe de Maastricht, donc on a deux unifications de continents comme ça. Et qu'écrit Gary Becker à ce moment-là? Il écrit ça. Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. C'est-à-dire, là encore, il y a une très grande conscience de classe chez Gary Becker des avantages qu'il va pouvoir tirer, lui et sa classe, du libre-échange, à savoir une diminution du droit de travail et la protection de l'environnement. On a aussi une note interne de Lawrence Summers, qui est alors chief économiste à la Banque mondiale, qui depuis a été conseiller de Barack Obama, qui dit ceci. C'est une note interne, une note de service. Juste entre vous et moi, la Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des industries sales vers les pays les moins développés ? La logique économique derrière le déchargement des déchets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas est irréprochable et nous devons la regarder en face. Alors, cette note de service était intitulée « Good Environmental Practices »,« Bonnes pratiques environnementales ». Vous voyez ? Mais là, tout ça, ce qu'il faut souligner, c'est tout ça. Moi, j'entends des gens s'insurger sur le terrain moral, contre Depardieu, Bernard Arnault, et ainsi de suite. Ce n'est pas de la morale. Tout ça résulte c'est logique. Il y a une certaine forme de logique dans tout ça. Alors, contre ça, moi, je pense qu'on a un outil qui est à portée de main, qui est les taxes aux frontières, les barrières douanières. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'interdire. Qu'on ne doit pas s'interdire de penser. Il ne doit pas y avoir un tabou sur la question du protectionnisme, de la même manière que je pense qu'il ne doit pas y en avoir sur le terrain des dévaluations, de la dépendance de la banque centrale ou de la banqueroute. Juste pour dire ça, la dernière fermeture d'entreprise que j'ai faite, moi, c'était Parisot, tiens. Parisot, siège de France, donc Parisot qui a remporté une grande bataille encore cette nuit. Parisot, siège de France dans la Somme, à Berthe-aux-Cours-les-Dames. Et j'y allais là pour la vente aux enchères du matériel, dont je connais bien, c'est bien les personnes, puisque c'était à 20 km de chez moi, j'étais déjà allé un paquet de fois. C'était pour la vente du matériel de l'usine qui fabriquait des canapés et ainsi de suite. Et en fin de compte, fabriquer des canapés en Roumanie, c'est quand même beaucoup plus rentable. C'était les oncles le père défunt maintenant de Laurence Parisot. Qui avait cette usine. Et en même temps que je vais là-bas, donc on est le 17 octobre 2008, j'entends à la radio que, donc sur France Info, d'une manière tout à fait exceptionnelle, Laurence Parisot a pris l'initiative d'organiser à Paris une réunion des patronats des principaux pays membres du G8. Et pour déclarer quoi ? Nous attendons aujourd'hui des responsables politiques et institutionnels qui écartent toute mesure protectionniste. Nous sommes convaincus que nos économies retrouveront le chemin de la croissance à condition que les pays écartent les mesures protectionnistes. Bon, on avait Ernest-Antoine Seyer qui racontait la même chose un mois et demi après. Au G20 à Londres, le premier point de Laurence Parisot, c'était encore « Il nous semble tout à fait essentiel de dire clairement et le plus précisément possible à quel point il faut résister à toutes les tentations protectionnistes. » Alors là, on a deux hypothèses. Laurence Parisot défend l'intérêt général et la démocratie. Et dans ce cas-là, il faut être avec Laurence Parisot contre toute forme de protectionnisme. Soit elle défend son intérêt personnel et ses intérêts de classe, et à ce moment-là, il est au moins permis de s'interroger sur l'intérêt que pourraient présenter pour nous des mesures protectionnistes. Je ne veux pas dire que quand le patronat dit noir, 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 il faut de manière pavlovienne dire blanc, mais on peut quand même s'intéresser sur l'utilité de ce blanc. Donc voilà un peu sur le terrain de rouvrir l'imaginaire économique. J'ai une série d'autres propositions éventuellement, mais les débats qu'il s'agit de rouvrir, qu'il s'agit de ne pas s'interdire, parce que au fond, je pense que les classes populaires parfois sont en avance sur la petite bourgeoisie intellectuelle dont je suis. C'est-à-dire que sur le terrain, notamment par exemple du protectionnisme, ou éventuellement même de la sortie de l'euro, il y a une majorité des classes populaires qui est extrêmement favorable. Donc en fait, il y a comme sur le terrain social comme une résistance de la couche intermédiaire. Maintenant, la question, et on le voit dans le reportage, parce que faut pas croire. Ils mettent en place leurs mesures, mais ils ne se sentent pas complètement tout puissants. Il y a une fragilité, je pense qu'on la voit chez Doisy. Et il ne faut pas grand-chose, parce que bon, Mélenchon, 90 000 personnes à la Bastille, ce n'est pas non plus la révolution, quoi. On est le lendemain de ça, et c'est un signal qu'ils ont entendu. Donc ça veut dire qu'il y a des choses possibles. Il y a des choses possibles, simplement c'est... Comment redonner espoir, comment combattre la résignation dans les classes populaires notamment? Alors, je vais m'arrêter là, puis je reviendrai là-dessus. Comment réussir la jonction de classe entre la petite bourgeoisie intellectuelle qui domine dans les appareils syndicaux, les appareils politiques, les médias et ainsi de suite, ça ne veut pas dire qu'elle décide de tout, mais enfin, de la gauche, et ces classes populaires, et comment faire qu'il y ait une force, parce qu'à partir du moment, la seule solution, je veux dire, pour peser face aux financiers, elle est celle-là. Il n'y en a pas 15 000 autres. Donc voilà, là, maintenant, le débat est ouvert avec vous. Je pense que j'ai pris une demi-heure, là, à peu près.
Deux heures et demie.
C'est bon, ça va ?
Non, c'est bon, c'est bon.
Donc je m'arrêterai là pour l'instant.
Merci. Merci, François. On peut l'applaudir. Je vais vous passer la parole tout de suite. Il y a encore des chaises libres ici et là. S'il y a des gens qui sont assis, vous mal assis. Pardon ? Ouais, si vous avez une chaise vide à côté de vous, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas derrière.
J'en ai une à côté de moi.
Là, je vais la prendre. Celle-là, je vais la prendre. Non, il y en a une là, il y en a une là. N'hésitez pas à venir, il y en a une là. N'hésitez pas à vous rapprocher. Je vais vous passer la parole. On va faire circuler. On va faire circuler le micro et François Ruffin profitera de vos questions pour évoquer d'autres pistes et d'autres expériences qu'il a menées.
Oui, bonjour. Je suis assez soulagé de votre dernière phrase, en fait, sur l'idée que des fois la petite bourgeoisie était vraiment en retard par rapport aux classes populaires. Parce que là, sur l'exposé que vous nous avez fait, je suis un peu déçu, en particulier du début, sur les restructurations de dettes. C'est-à-dire que finalement, si on prend la situation, 80% de dette, enfin 90% en France, c'est rien. À la fin, à l'après-guerre, en 1945, les démocraties occidentales avaient beaucoup plus de dettes. Et jamais il a été question de faire la révolution en faisant une restructuration de dette ou des choses comme ça. Seulement, on avait une monnaie, chacun avait sa monnaie, et l'État était financé par sa banque centrale, et donc il ne payait pas de taux d'intérêt sur ses dettes, et grâce à l'inflation, forcément, les dettes ont disparu, mais sans faire de révolution ou quoi que ce soit, sans attendre qu'on ait un bloc social suffisamment, que la situation soit tellement dégradée pour qu'on fasse la révolution pour supprimer les dettes. C'est très simple, la situation est très simple. Pourquoi vous nous dites ça ? Parce qu'en fait, vous ne voulez pas envisager la sortie de l'euro a priori, vous l'avez envisagé à la fin. Mais le discours sur l'annulation de la dette est un discours idéologique pour dire non, on va régler la question dans l'euro, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, les Allemands vont être d'accord. Les Allemands ne seront jamais d'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il faut vraiment abandonner le discours sur l'annulation de la dette, qui est un discours d'attaque, et aller vers des discours du type MPEP, le Mouvement pour l'éducation populaire, votre concurrent sur la scène. Moi, je ne suis pas...
Non, on n'a pas de concurrent. Non. Enfin, je vous rassure.
Non, mais c'est une scission. C'est une scission.
On a éventuellement
d'attaque.
Des gens qui ne voient pas la société, ouais. La vie comme nous. Mais
non, mais c'est une scission d'attaque, le MPEP. Et donc, tu prônes la sortie de l'euro, et clairement, les classes populaires seront réceptives à ces discours-là. Et il vaut mieux sortir de l'euro que réplier les dettes, parce qu'en fait, politiquement, ça sera beaucoup plus simple à mettre en place. Voilà.
Je ne sais pas si on prend plusieurs questions à la suite. 4-5.
Bonjour. Donc, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec celui qui vient de s'exprimer. Parce qu'en France, aujourd'hui, il y a 1 million de restructurations de dettes. Moi, je travaille dans une association qui gère beaucoup de dossiers de surendettement. Et dans le cadre du dossier de surendettement, on restructure la dette d'à peu près 1 million de foyers français, dont 200 000 bénéficient d'un effacement des dettes. Donc, comme quoi, c'est possible. Oui, non, mais là, je redescends au niveau des individus. Et donc, ce qu'on fait au niveau des individus, même François Bayrou disait, et même Jean-Louis Borloo disait que c'était possible de le faire au niveau des États. Donc moi, restructurer les dettes ou annuler des dettes, je pense qu'on peut le faire aussi bien pour des États que pour des individus. Parce que si on multiplie des individus par 1 million, ça fait beaucoup de restructuration de dettes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense qu'on doit pouvoir aussi se réapproprier l'économie. Moi, je rêve de créer une banque locale. J'en ai parlé à une réunion à la mairie de Nanterre avant Noël. Et j'ai des idées, si ça intéresse certains d'entre vous, je suis partant pour le faire. Voilà. C'est très compliqué en France de créer une banque, mais pour autant, je pense qu'on peut le faire, quitte à s'appuyer sur une autre banque au départ. Voilà.
Merci. Allons-y.
Marie Scamborde, Je fais suite à monsieur rêve de créer une banque locale, mais l'annulation de la dette est possible, mais on peut aussi trouver trouver force et énergie dans les réalisations de monnaie locale et de fondations de monnaie locale. Je pense que bon, là, je peux vous faire un petit topo sur le sol violet de Toulouse. Là, ça, ils sont environ un millier et ils fonctionnent avec la presque bientôt, s'ils font leurs preuves, s'ils continuent à très bien faire leurs preuves comme c'est le cas, avec la bénédiction du trésorier payeur général du Lot-et-Garonne, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que ça donne de l'air, ça fait respirer vachement le 7 euros unique, 7 euros qui nous pèse. Voilà, dont on... Alors, bon, ça fait, c'est comme une espèce de système de contrebalancement. Je pense que ce n'est pas du tout inintéressant à envisager de développer, hein, partout, même en Ile-de-France. À qui la
suite ? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre remarque d'ailleurs ?
Deux petites questions. La première, je pense qu'un terrain de combat important et qui ne doit pas être laissé à Madame Le Pen et au Front National, c'est celui qui a déjà été abordé, c'est de la sortie de l'euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, le seul parti qui dit haut et fort il faut sortir de l'euro, c'est le FN. Il serait temps que certains partis de gauche aussi se penchent sur cette question. Et il serait temps aussi de ne pas laisser non plus la rhétorique, qui est quand même maintenant une réalité dont il faut se saisir, qui est que peu ou prou, l'UMP ou le PS font à peu près la même politique économique. Et le problème, c'est que beaucoup de gens s'interdisent de dire ça parce que, quelque part, c'est la thématique du tous pourris et on a peur que ça fasse le jeu du FN. Je ne crois pas que ça fait le jeu du FN et je crois qu'il faut que les gens comprennent que finalement, ces gens ont fait les mêmes études, ils croient les mêmes choses, les mêmes doctrines, ils sont dans la même pensée unique, ils lisent les mêmes journaux, ils vont aux mêmes soirées. Et donc, ils font à peu près la même chose. Donc, je pense qu'il serait bon, parce que quand on vous entend dire, et je suis tout à fait d'accord sur le protectionnisme, le problème, c'est que le protectionnisme, on peut dire c'est bien, ça offre des solutions, et j'en suis persuadé, mais enfin, le PS ne se saisira jamais de ces solutions. Ils sont tous persuadés que c'est la fin du monde, comme d'ailleurs leur ami Pascal Lamy, chef de l'OMC, qui exactement tient les mêmes discours que Madame Parisot sur « il faut attention, faire très attention au protectionnisme, parce que le protectionnisme, ça donne le nazisme, ça donne la guerre dans toute l'Europe, enfin tout ce genre de délire qu'il est temps de démonter publiquement, haut et fort, en expliquant aux gens que finalement, le PS, on appelle ça la gauche, mais enfin, quelle est la différence entre la droite et la gauche aujourd'hui ? Je parle de la gauche de gouvernement et de la droite de gouvernement, c'est sur le sociétal. Alors sur le mariage gay, c'est très bien, et je suis pour, et c'est une avancée, mais enfin, c'est pas avec ça que les classes populaires vont avoir des fins de mois moins difficiles. Et par contre, un petit truc sur lequel je n'étais pas d'accord, quand vous dites, oui, il suffit d'aller chercher, finalement, de reprendre les biens publics là où ils sont, par exemple les autoroutes, ça me semble être un peu de l'esbrouf et vendre des solutions un peu faciles qui ne sont pas applicables. Je veux dire, si on dit à Vinci, on reprend les autoroutes, combien Vinci va mettre de gens au chômage ? Alors moi aussi, je pense qu'il ne fallait pas le faire, mais enfin, il y a des irréversibilités qui se créent. On ne peut pas récupérer ce qu'on veut, comme on veut, aussi facilement que ça.
Tu réponds, François ? Encore.
Oui, Jean-Louis Michniak, membre du bureau d'attaque 92, j'habite Colombes. D'abord, un grand merci à François pour toutes ses explications, émaillées d'anecdotes, émaillées également par un ton plaisant qui permet de faire passer des choses difficile d'une manière ludique et d'une manière agréable, et ça, ce n'est pas rien dans la communication. Merci encore, puis à tous ceux qui ont organisé ce débat, qui a l'air d'être bien parti, et qui me touche beaucoup au point de vue de l'importance de l'assistance. Je suis extrêmement surpris, je suis même touché agréablement. Juste pour dire une chose également, que quand on ne veut pas suivre les règles du FMI, il y a également d'autres pays qui ont pris évidemment ces sentiers battus, entre guillemets, c'est l'Argentine. Et puis un dernier point, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir une pratique de Pavlov, c'est-à-dire que parce qu'une chose a été dite par un adversaire, eh bien, ou l'éviter ou dire le contraire systématiquement.
Et c'est vrai que, comme on dit, plusieurs personnes, plusieurs camarades, plusieurs amis, ça peut être finalement un amoindrissement, une réduction dans la force de nos propositions et dans la force de notre production intellectuelle. Voilà, merci.
Oui, bonsoir. Bon, merci à François Ruffin pour son exposé. La question que je vais lui poser là, va me, j'espère, permettre de développer un petit peu un point qui, je dirais, un peu comme d'habitude, reste obscur, aussi bien à TAC que dans beaucoup d'autres associations. C'est que nous avons développé là plein de solutions, hein, protectionnisme, sortir de l'euro. Moi, je pourrais ajouter fermer les paradis fiscaux et voir du côté des évasions fiscales des grandes entreprises. Bon, tout ça est bel et bon. On peut avoir les meilleures idées du monde, mais comment les imposer ? Et c'est là, en général, où il y a un point, où il y a un point aveugle. Non, ce n'est pas l'éducation populaire qui fera fléchir M. Bernard Arnault ou le monsieur qui est là. Leurs privilèges, ils ne les laisseront pas tomber comme ça, en étant un jour touchés par la grâce et par le sentiment de l'intérêt général. Leurs privilèges, ils les abandonneront que si on les leur prend. Voilà, Stendhal disait, les peuples n'ont de liberté que celles qu'ils ont le courage d'arracher. Voilà. Et donc, moi, ma question, elle est précise, je veux dire, c'est comment établir ce rapport de force, sur quelles entités politiques s'appuyer, puisqu'il y a quelqu'un qui a dit que le Parti socialiste jamais ne se résoudrait aux solutions que nous proposions. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut dire comme Blanqui, et maintenant il nous faut des armes ?
Bon, en préalable, je voudrais faire une déclaration de modestie. Moi, je ne suis ni sociologue, ni économiste, ni historien. Je suis rien du tout, ni politologue. Je suis journaliste, c'est-à-dire bon à rien et touche à tout, quoi. Voilà. Et puis, je ne suis pas Nostradamus non plus. Maintenant, je ne sais pas, quelques débuts de réponses. D'abord, ça, tout dépend. Dans toutes ces questions-là, il y a une seule chose qui importe, c'est le rapport de force. Si le texte est passé cette nuit, c'est parce qu'il n'y a pas eu une manif importante. Voilà, là, il y a eu une absence de. Le rapport de force n'a pas pesé. Il a peut-être pesé sur le terrain de l'élection, mais il n'a pas pesé dans la négociation de cette nuit. Aucune des mesures qu'on évoque ne peut être prise en dehors d'un rapport de force. En dehors d'une situation historique particulière, c'est-à-dire le sentiment, comme ça peut se produire dans un certain nombre de pays, qui n'est pas le cas en France. Aujourd'hui, la France emprunte à 1%, taux d'intérêt, entre 1 et 2%, ça dépend des moments. Pourquoi on s'embêterait à vouloir se désendetter alors qu'on peut s'endetter à 1%? Je veux dire, moi, de manière cynique, je dirais, gavons-nous. Gavons-nous quitte à ne plus payer ensuite. Mais aujourd'hui, de toute façon, la situation historique sur le marché des prêts fait qu'il n'y a pas, aujourd'hui, au présent, de questions urgentes, impératives, de poser, de savoir si on doit sortir de l'euro, si on doit... Je parle là pour, en empruntant à 1%. La question, c'est... Quand on arrive, et que c'est la Grèce, quand on arrive dans une situation comme est celle de la Grèce, comme est celle de l'Espagne, comme est celle du Portugal, comme est celle de l'Irlande, ou comme un contre-exemple l'Islande, quelles sont les idées qui dominent ? Quelles sont les idées de rechange qui sont prêtes à ce moment-là ? Et quelles sont les idées qui peuvent s'appuyer sur des partis, sur des forces politiques ou sur des forces syndicales, sur des forces sociales existantes, quand la crise survient. Moi, je pense que c'est ça la question. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense, c'est de se dire, ben voilà, il y a un certain nombre d'idées qui ne sont pas, ne sont pas interdites. Quand la crise, si jamais la crise une crise politique survient, nous avons des idées de rechange. Alors, je vais répondre, je le redis, tout ce que je peux dire, il y a un certain nombre de choses où j'ai creusé mes sources et puis tout ça. Là, je vais quand même essayer de ne pas raconter trop de conneries. Mais en gros, je ne suis pas non plus un expert. Moi, sur le terrain de la monnaie, je suis hostile au fétichisme de la monnaie. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de, je suis plutôt favorable, je serais plutôt favorable éventuellement à une sortie de l'euro. En tout cas, si on était en Grèce, il y aurait la nécessité de sortir de l'euro, parce que c'est quand même l'un des trucs qui va les plomber durablement. Maintenant, l'Islande avait sa propre monnaie et elle s'est sortie de sa panade aussi
par des banqueroutes, aussi par du protectionnisme, aussi par un certain nombre d'autres instruments que seulement une dévaluation. L'Islande a fait des dévaluations, qui est un instrument économique important, mais elle n'a pas fait que ça. Elle a conjugué un certain nombre d'outils. Donc moi, pourquoi pas, mais pas de fétichisme de la monnaie. C'est pas par là que tout passe. Tout comme je pense que le protectionnisme ou les taxes douanières, c'est un outil qui est important, ça n'est pas le seul outil à mobiliser dans ces cas-là. Je vous ai parlé des banqueroutes. Sully, au moment où il remet en place les finances de l'État, il mène un certain nombre d'autres politiques parallèles à ça. Donc il ne s'agit pas de penser qu'on aurait un instrument économique clé. Mais effectivement, la question centrale que pose monsieur, c'est comment on fait pour que ça se mette en pratique. Aujourd'hui, on n'a pas les forces sociales pour le mettre en pratique. Bon, moi, je suis proche du Front de Gauche, personnellement. J'en suis pas membre, mais je suis personnellement proche du Front de Gauche. Aujourd'hui, c'est pas le Front de Gauche qui domine. On peut toujours dire que le Parti Socialiste n'est pas à la gauche, mais aujourd'hui, dans la gauche, ce qui se nomme la gauche, c'est néanmoins encore le Parti Socialiste qui domine. Comment faire ? Je pose des questions là. Comment faire que pour quand la situation de crise survient, comme elle est survenue en Grèce, on n'ait pas un blocage, parce que la décantation de Syriza a quand même mis du temps, compte tenu de leur situation, pour qu'on n'ait pas un blocage à l'intérieur des forces de la gauche de gauche. Et déjà, il me semble que là, on a un pas d'avance sur la situation grecque, puisqu'en Grèce, il y a une forte division entre le parti communiste traditionnel et puis Syriza. Et deuxièmement, ils ont bloqué la situation entre le PASOK et les forces de gauche en Grèce, à savoir qu'il pouvait y avoir éventuellement une fracture à l'intérieur du PASOK avec un certain nombre de députés qui aillent rejoindre ou qui préconisent les politiques qui avaient une oreille dans la gauche critique, et que ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des crispations. Bon voilà, il faut entrer, si jamais on doit entrer dans une situation de crise, il faut qu'on puisse y entrer sur le terrain politique avec déjà une force existante, en espérant qu'elle n'explose pas d'ici là, qui serait éventuellement le Front de Gauche, et puis en se disant que pour moi, la barrière entre la droite et la gauche, elle passe à l'intérieur du Parti Socialiste. C'est ça qui rend pour moi la situation compliquée. C'est que je pense qu'il y a un certain nombre de membres du Parti Socialiste, y compris, non pas dans les dirigeants, mais dans les structures, qui sont réellement à gauche. Je veux dire, moi, j'ai plaisir à rencontrer Filoche. Alors, il m'amuse dans la manière dont il calcule en permanence ses motions et puis tout ça. Mais enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est honnêtement, sincèrement de gauche. On peut considérer qu'aujourd'hui, il s'égare en étant au Parti Socialiste, que ce n'est pas la bonne tactique, la bonne stratégie. Mais n'empêche que si une situation de crise survient, il faut compter aussi avec l'aile gauche du Parti Socialiste, qui ne fera que s'amplifier. Parce que là, si Hollande, il continue comme ça, il va se prendre un mur politique, un mur électoral. À la limite, on a l'impression qu'ils s'en foutent. C'est ça le problème. On a l'impression que peu importe. Mais là, à continuer comme ça, vraisemblablement, les municipales de 2014 vont être quand même très très compliquées pour le Parti Socialiste. Voilà. Donc là, on va rentrer dans des... Et donc, il y a un certain nombre d'élus, puisque le Parti Socialiste est essentiellement un parti d'élus, qui vont se mettre à poser des questions sur la politique macroéconomique qu'on est en train de mener, et ainsi de suite. Bon, je dis que, dans ce contexte-là, l'un des objectifs qu'on doit avoir, c'est que nos idées, elles soient mieux structurées. Je pense que, y compris dans le programme du Front de Gauche, elles ne sont pas claires. Par exemple, j'ai évoqué la question du protectionnisme, mais il y a une grande timidité sur cette question-là. La question de la sortie de l'euro, elle doit être posée, elle doit être tranchée en fonction d'une situation historique. Moi, je suis toujours juste comme ça. Je me positionne toujours en fonction des situations historiques. La banqueroute, je ne suis pas pour la banqueroute dans l'absolu, dans l'idéal, mais en fonction d'une situation historique. Le protectionnisme, je ne suis pas pour le protectionnisme dans l'absolu, mais en fonction d'une situation qui se présentera ou qui ne se présentera pas. Je donne souvent l'exemple de la sécurité sociale. Là, j'ai entendu banque locale, initiative locale. Je dois dire que je suis sceptique sur la capacité de ces initiatives, même multipliées, à peser sur la finance. Bon. Mais l'exemple qui est celui de la sécurité sociale est quand même intéressant. Au départ, c'est quoi ? C'est-à-dire sur la conjonction de ce qui se passe en haut et de ce qui se passe en bas, des forces d'en haut et des forces d'en bas dans la transformation. Au départ, c'est quoi la sécurité sociale ? Ce sont des mutuelles. Comment se créent les mutuelles ? On a par exemple un exemple en Savoie, une usine où il y a un accident du travail qui fait 4 morts. Il y a un délégué qui n'est pas délégué encore, qui sort, qui s'appelle Antoine Croizat, qui appelle tout le monde à la grève en 1904, il me semble. À ce moment-là, tout le monde sort, fait grève, ça dure un paquet de jours. Il est reconnu comme étant délégué syndical. Et par ailleurs, il y a l'autorisation d'avoir une caisse d'assurance pour la veuve, pour les veuves des accidentés. Et puis, bon, lui est licencié, mais c'est, voilà. Son fils, c'est Ambroise Croizat, dont je vais reparler. Mais Antoine, donc là, on est. Si on avait fonctionné qu'avec des mutuelles, en revanche, en 1940, il n'y a qu'un tiers des salariés qui sont couverts par l'assurance sociale ou par l'assurance vieillesse. Vous voyez, on n'en est qu'à un tiers. Il y a quelque chose qui se passe entre-temps. Il y a, pendant la guerre, il y a la rédaction du programme du Conseil national de la résistance, qui parle d'un vaste plan de sécurité sociale. Moi, ce que je dis toujours, c'est le miracle. C'est pas qu'il y a eu un beau programme, parce que des programmes, la gauche en a eu plein dans son histoire, mais c'est qu'il était partiellement appliqué. À la libération, et il n'est pas appliqué par hasard. Il est appliqué parce qu'il continue à y avoir cette conjonction. Il va y avoir cette conjonction entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qui se passe sur le plan politique? À l'automne 1945, ce sont les partis de gauche, on appelle ça l'Assemblée écarlate. L'Assemblée constituante de 1945 est constituée majoritairement de socialistes et de communistes. Du coup, ça amène Ambroise Croizat comme ministre des Travailleurs au gouvernement. Mais là, il ne faut pas croire que les réformes, elles sont passées de la sécurité sociale comme ça. Il y a eu un énorme travail, des cahiers de doléances qui ont circulé dans le pays, des réunions le 14 juillet 1945 pour exiger cette sécurité sociale, on va refaire des états généraux et ainsi de suite. Dans tous les départements, il y a une mobilisation. Il y a un poids de la CGT et un poids du Parti communiste. Ambroise Croizat, il dit, bon ben voilà, moi je vais mettre en place la sécurité sociale. Au sein du gouvernement, il y a René Pleven, qui est un ministre MRP de droite, qui dit, oh, mais attendez, oui c'est une bonne idée, mais c'est pas le moment, vous avez vu le bazar dans la France, et puis tout ça, non c'est pas le moment qu'il faut le faire, il faut attendre encore un peu. Parce qu'il sait, René Pleven, que quand la fenêtre de l'histoire s'ouvre, elle se referme assez vite. Donc il suffit qu'il attende, cette opportunité va se refermer, et puis on sera tranquille avec la sécurité sociale. Mais Ambroise Croizat, il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Si vous faites ça, on déclenche la grève générale. Et il pèse à l'intérieur du gouvernement. On sait qu'il y a tout ça, et qu'il y a éventuellement des maquisards qui sont sortis des maquis avec des fusils. Enfin, ça peut redevenir le bazar assez rapidement. Donc, en 6 mois, la sécurité sociale entre dans les faits. Mais elle entre dans les faits aussi, parce qu'Ambroise Croizat va s'appuyer sur tous ses réseaux locaux, d'abord pour faire construire concrètement les caisses de sécurité sociale, parce que vous savez, maintenant on voit ces trucs, ces immenses bâtiments, à Amiens c'est un immense bâtiment de verre, mais au départ ça a été des petites baraques que les gens ont été construire sur leur temps libre le soir. Et il fait ce que les gens n'étaient pas habitués à faire, il fait ramasser dans les usines les feuilles de soins pour les faire collecter. Donc voilà, je pense, une conjonction, donc il faut qu'il y ait les idées. Dans le programme du CNR, il y a l'idée. Il y a l'idée qui s'appuie sur déjà un certain nombre d'expériences qui ont existé, mais par ailleurs, ensuite, on continue à... Le haut s'appuie sur le bas, et il ne peut pas y avoir de transformation sans, à mon avis, qu'on ait la conjonction entre les deux. Même un Mélenchon élu, si jamais il n'y a pas une animation vive sur le terrain, il n'y a rien qui se passera, parce que la droite, les forces conservatrices, elles continuent à peser. J'ai parlé du FMI, j'ai parlé du MEDEF, mais ils font un travail considérable. Moi, j'étais à Bruxelles à la mi-décembre, mais le poids de toutes les organisations patronales et simili-patronales, lobby financier et puis tout ça, qui sont revenus constamment concernant l'union bancaire, je peux vous raconter après ça en détail si vous le souhaitez, mais qui devait être un truc pour réguler et qui se retrouve à déréguler, c'est-à-dire qu'il y a les critères de Bâle, sur le terrain des banques qui s'appliquent à l'échelle internationale, l'Union européenne a mis en place des critères qui sont en dessous des critères internationaux. Pourquoi ? Parce que depuis l'origine du projet jusqu'à sa signature début décembre ou fin novembre, il y a eu un poids constant. Là, Hollande, il a autour de lui, mais il l'est lui-même, mais des hauts fonctionnaires qui appartiennent à la grande bourgeoisie, il a un certain nombre de forces qui continuent à peser. Donc même un Mélenchon laissé dans ce contexte-là, je pense que ça ne donnerait pas grand-chose. Il faut qu'il y ait absolument la conjonction entre les deux. Alors après, je peux vous faire un baratin sur rallier les forces, comme on fait pour rassembler la petite bourgeoisie intellectuelle et les classes populaires. Mais bon, je vais laisser repasser une série de questions. Excusez-moi.
Je crois qu'il y avait une question, voilà, au fond.
Oui, bonsoir. Je suis assez d'accord à ce qui vient d'être dit, mais je le formulerai un petit peu autrement. J'étais contre Maastricht, contre toutes les étapes de la construction européenne, mais c'est fait. Et je ne suis pas sûr qu'en se basant sur l'idée de sortir de l'euro ou sortir de l'Union européenne, on rassemblera les masses. Je suis même persuadé du contraire. Par contre, il y a des mots d'ordre qui peuvent faire l'unité et qui sont contradictoires avec les institutions européennes, avec l'esprit du néolibéralisme ambiant. Et c'est par exemple l'idée des nationalisations. Hein ? Nationalisation des entreprises qui licencient, il suffit de dire ça pour que tout de suite il y ait une levée de bouclier en France. En Angleterre, les conservateurs et les libéraux ont fait des nationalisations pour des entreprises en difficulté, mais provisoires, hein, comme celle de Montebourg, et puis avec indemnisation. Les capitalistes ne perdent aucune plume dans cette affaire-là. Aux États-Unis, Obama aussi a fait ça. Ce sont des mesures capitalistes, ce genre de nationalisation. Mais en France, nationalisation, ça évoque des choses beaucoup plus sérieuses, celle de la libération consécutive au programme national, au programme du Conseil national de résistance, ou plus récemment, celle de Mitterrand en 80-82. Et ça, les capitalistes n'aiment pas, parce que d'abord, ce n'est pas provisoire, même si dans les faits, elles ne sont pas forcément éternelles. On l'a vu, la plupart de celles qui ont été faites aussi bien par Mitterrand que celles qui ont été faites en 1945 par De Gaulle ont été annulées par des privatisations. Mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose que des nationalisations provisoires à la Cameroun. Et si on annonce ça, d'abord, il y a beaucoup de patrons qui se diront bah, « Non, tant qu'à faire, je préfère garder mon personnel, même si je fais beaucoup moins de profit, que d'être nationalisé. » Surtout si on parle de nationalisation sans indemnité, parce que c'est ça qu'il faut réclamer. Parce que les capitalistes ont fait des profits pendant des années, des décennies, ils les ont placés de 36 façons dans 36 pays. Il n'est pas question de leur rembourser ce que valent encore les entreprises qu'ils ont en France pour leur permettre de placer leur fric ailleurs, dans d'autres entreprises, voire en France d'ailleurs, comme c'était fait en 82. Les gens qui ont été indemnisés pour leurs entreprises en 82, ils ont réinvesti en grande partie en France dans d'autres sociétés existantes ou qu'ils ont créées pour l'occasion. Donc je crois que en annonçant des mesures comme ça, et en les appliquant, si on est au pouvoir, ou si la pression fait en sorte que le gouvernement soit obligé de les appliquer, à ce moment-là, on se heurte de front aux institutions européennes. Et à ce moment-là, il y aura peut-être la menace, ah, mais si vous faites ça, on vous exclut de l'Union européenne. Bon, bah, chiche. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre la question de la sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne. Alors, en mettant en avant des mots d'ordre qui soient repris, qui soient populaires, hein, les nationalisations, les sondages l'ont montré ces dernières semaines, les Français sont majoritairement pour. Alors les modalités, ça, c'est à discuter. Hein, c'est pas très clair pour tout le monde. Mais je crois que c'est de cette façon-là, et non pas à la façon du POI ou à la façon de Dupont-Aignan, ou d'où Marine Le Pen, parce que si Marine Le Pen a fait des bons scores, c'est pas parce qu'elle propose de sortir de l'euro, c'est malheureusement pour plein d'autres choses.
Merci, je crois qu'il y a une question juste à côté de vous, une dame juste à côté de vous.
Bonjour, moi je voudrais dire que, enfin, je voudrais aborder le problème un peu différemment. Dans ce long combat du capital et du travail qui dure depuis des millénaires et qui risque de durer encore un petit moment, il y a des batailles. Et si on regarde à l'heure actuelle, effectivement, depuis 30 ans, on est en train d'en perdre des batailles, et notamment les deux essentielles, puisqu'au bout du compte, qu'est-ce qui est important ? C'est l'argent et c'est la maîtrise du travail. Et là, il me semble que... Alors bon, sans compter que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une petite aparté, sur le fait que si on met les classes moyennes et les classes populaires, on est majoritaire. Et dans une démocratie, c'est important. Alors donc, effectivement, il faut essayer d'y aller tous ensemble. Ensuite, il faut essayer de gagner les batailles importantes, donc attaquer sur les domaines importants qui sont l'argent et qui, effectivement, récupérer le travail. Alors là, bah, qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Et je pense que si, effectivement, il y a une stratégie claire, après les structures qui pourront, les organisations qui pourront éventuellement les porter, c'est peut-être moins important. Parce que l'important, c'est qu'effectivement, l'ensemble d'un pays, enfin au moins une majorité dans un pays, détermine une stratégie. En ce qui concerne l'argent, ce sont les banques. On a laissé les banques faire n'importe quoi. Ça leur a permis de créer du capital, de l'investir ensuite dans des multinationales ou ailleurs, et effectivement de s'approprier les entreprises et de s'approprier le travail, encore plus et de façon beaucoup plus prégnante sur les gens qui travaillent. Donc effectivement, il y a les banques. Les banques, vous en avez parlé tout à l'heure, on pourrait effectivement légiférer et au moins au moins rétablir les règles prudentielles qui existaient, parce que pour l'instant, c'est très dangereux. Ça peut être encore plus dangereux si ça se casse vraiment la figure. C'est pour ça que pour l'euro, à la limite, peut-être, de toute façon, ça se cassera peut-être la figure tout seul, et il vaut peut-être mieux pas en avoir la paternité et la responsabilité. Il vaut mieux la laisser aux gens qui, effectivement, l'ont mal monté. Donc, moi, je pensais peut-être que les deux priorités pourraient être d'essayer d'imposer une législation sur les banques, sur le système financier, peut-être au point de vue national, au moins on se protégerait, si on n'arrive pas à le faire de façon européenne ou mondiale, au moins déjà, on pourrait certainement le faire en France. Ou au moins déjà, se battre tous là-dessus. Et puis l'autre, effectivement, c'est de trouver, de réfléchir sur le travail, puisqu'en définitive, qui est-ce qui crée, qui est-ce qui dirige, quels sont les types d'entreprises ? Les entreprises publiques, il n'y en a plus beaucoup, les multinationales, et après les PME, enfin après les entreprises plus petites. Il y a certainement des choses à réfléchir là-dessus, mais je ne vais pas accaparer trop. Pardon.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre intervention ?
Merci. Je voudrais savoir, supposons qu'il y ait une gigantesque mobilisation, tout le monde en a marre, mobilisation dans toute la France, on va changer de régime, on veut, etc., etc. Il va y avoir des élections peut-être, je ne sais pas. Bon. Bref, ça gronde, ça monte, et ça y est, on sent que cette fois-ci, il y aura des gens qui sont vraiment disposés à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors, tous ces gens qui sont très clairvoyants, là, comme ceux que vous interrogez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire tant qu'il est encore temps pour eux? Ils mettent tous leurs capitaux dehors. Et quand le peuple arrive au pouvoir, il n'y a plus rien, les caisses sont vides. Parce que tout vient de s'en aller, tout vient d'être exporté. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Merci, Eric.
Bon, moi, enfin, je pense que effectivement, enfin, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit en général. Je pense que c'est vrai qu'il nous faut beaucoup, beaucoup d'outils, et je crois aussi qu'il faut se préparer effectivement à un moment où ça ira encore plus mal, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en arrive pas à la situation d'autres pays actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour se préparer? C'est-à-dire que pour les gens, il suffit pas seulement qu'ils soient en colère, il faut aussi qu'ils soient peut-être prêts à gérer leurs affaires, non? Et on n'est peut-être plus tout à fait à la situation de 1945 où les gens avaient pris l'habitude de s'organiser, de se battre, de résister, etc. Maintenant, on est complètement anesthésié par la télé, par la pub, par la consommation, par toutes les choses qu'on a toujours envie d'acheter, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc voilà, on est devant quand même quelque chose de pas si facile que ça. Et quand vous parlez de l'Argentine, bah, l'Argentine, après tout, un des outils qu'elle a eu à sa disposition, c'était d'avoir sa propre monnaie avant le clash. Alors, moi, je pense aussi quand même qu'il y a des moyens, peut-être petits, d'apprendre aux gens à regérer des choses entre eux. Vous ne croyez pas à une banque, vous ne croyez pas à la monnaie locale, enfin, on voit que vous ne croyez pas trop à ça, mais je comprends bien, ce n'est pas du tout un truc qui va révolutionner tout. Simplement, ça apprend aux gens ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent faire quelque chose ensemble, ça leur apprend à travailler ensemble, ça leur apprend à gérer ensemble, et peut-être que ça les apprendra, une fois que ce mouvement politique aura existé, bah, de pouvoir gérer les affaires. Je ne sais pas, enfin, c'est un complément un peu de ce que vous avez dit. Voilà.
Merci, on va repasser la parole. Je vais en profiter, je peux poser une question aussi. Non, on parlait de moyens concrets, quelqu'un parlait de confronter le monde du capital et du travail. Donc j'ai entendu parler du comité d'intervention en Assemblée Générale, plus connu sous le nom de SIAG, je crois. Ouais, si tu peux nous en parler, et je vous laisse la parole.
Oui, non, pour continuer ce que disait Nelly et répondre à monsieur sur qu'est-ce qui se passe s'ils partent tous avec leurs capitaux. Bah, j'aurais tendance à leur dire bah, qu'ils s'en aillent avec leurs capitaux, puis nous on va recréer une nouvelle monnaie nationale, locale, ce qu'on veut. Bon, les monnaies complémentaires, je suis d'accord que ça a par exemple beaucoup marché au Brésil. Hein, en 10 ans, il y a 10 ans, ils ont créé une monnaie qui s'appelle le Palmas. Il y a eu une présentation ici il y a un ou deux ans, je crois, avec Patrick Vivret. Il y avait un Brésilien qui est venu présenter ça. Aujourd'hui, il y a 50 monnaies locales, je crois, au Brésil. et qui sont validés et reconnus par la Banque centrale. Donc, si ceux qui ont les capitaux aujourd'hui en euros veulent partir avec leurs euros, comme vous disiez tout à l'heure, la constante ici, c'est nous. C'est-à-dire que nous, on ne va pas partir. Et nous, on a, enfin, en France, il y a de quoi produire. Il y a de quoi nous nourrir, de nourrir les 60 millions de largement, puisqu'on exporte. Il y a de quoi nous nourrir, il y a de quoi nous vêtir, il y a de quoi tout faire en France. Donc si ceux qui ont l'argent aujourd'hui croient que parce qu'ils partent, on n'est plus capable de travailler et de s'auto-nourrir et de s'auto-vêtir, alors évidemment, on aura peut-être, comme dit Nelly, moins de télé, moins de caméscope et de magnétoscope, mais ce n'est pas ça qui nous fait grandir et nourrir. Donc la force de travail, elle est ici, elle n'est pas chez les banquiers. Voilà. Donc si on veut... Alors quand je disais créer une banque locale, vous disiez que ça n'allait pas faire peur aux banquiers. Pour autant, c'est en créant ces initiatives, et vous l'avez dit aussi, c'était un peu paradoxal tout à l'heure, parce que vous disiez que ces initiatives n'allaient pas leur faire peur, puis à la fois vous disiez que c'est en partant du bas qu'on allait recréer la force. Donc la force, c'est nous, il n'y en a pas d'autres. Donc il faut qu'on se réapproprie notre économie locale. Aujourd'hui, on est effectivement beaucoup trop dépendant d'Internet, des abonnements Orange, SFR ou Bouygues. Donc recréons de la force locale. Et de la bidoche, oui, c'est vrai aussi.
Merci.
Je peux faire juste un petit commentaire avant que vous interveniez, ça ne va pas être très long. Vous parlez de rapport de force et en fait vous considérez que c'est finalement la chose essentielle peut-être pour faire bouger les choses. Et ce que j'entends ici donc avec la dernière intervention sur les monnaies locales ou monsieur sur quelque chose peut-être d'un peu plus fantasmé, c'est que finalement en s'interrogeant sur ces initiatives qui sont locales mais finalement on imagine qu'elles ne résolvent pas le problème, il y a une forme de résignation si vous voulez à tout changer. Et j'en ai deux exemples, finalement, c'est deux pays qui sont dans des situations bien plus complexes que la nôtre, qui sont la Grèce ou l'Espagne, n'ont pas fait cette révolution. Elles ont accepté le diktat du FMI ou de l'Europe, et finalement, dans des situations bien plus complexes que la nôtre, les gens n'ont pas tellement bougé, finalement. Donc c'est une forme de scepticisme un peu...
Mais je voudrais dire autre chose après, mais je pense que, par exemple, je veux dire, s'ils partent avec leurs capitaux, Bernard Arnault, je veux dire, c'est mon ami, j'en reparlerai, mais bon, voilà, il a quand même fait la ruine de ma région. Donc, enfin, en partie, il n'en est pas le seul responsable. Mais je veux dire, là, il décide de partir. On décide que ces vignes, que tous ces centres de production français, que ces marques, on va continuer à produire sous ces marques, c'est un suicide pour lui. Il faut être clair. Si on veut menacer Bernard Arnault, il peut se suicider économiquement. Soit il arrive à placer sa fortune, ce qu'il a en liquidité du moins, parce que la plupart des choses dans sa fortune, il ne l'a pas en liquidité, il l'a en possession. Il ne va pas partir avec son château IQM, je ne sais pas comment il part avec son château IQM en Belgique, avec ça sur le dos, quoi. Mais donc voilà, je veux dire, si jamais on veut menacer Bernard Arnault, mais là ça veut dire sortir du légalisme, de toutes les contraintes juridiques, c'est clair, quoi. C'est de la menace politique parce que le gouvernement sent qu'il a pour lui le rapport de force derrière lui et ainsi de suite et qu'il y est déterminé. Mais si on veut, là en l'occurrence, on peut. Alors, puisque je parlais de Bernard Arnault, il me demande de parler du CIAG. Alors, le CIAG, c'est le comité d'intervention en assemblée générale parce que je voudrais que vous deveniez actionnaire. J'ai des actions pour vous. Voilà. Vous pouvez devenir actionnaire dès aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, encore une fois, ça, ce n'est pas quelque chose qui, en l'occurrence, va changer la face du monde. Mais il y a un lieu de confrontation entre le capital et le travail. Il y en a peu, finalement. Des endroits où les travailleurs peuvent rencontrer en direct leur PDG et les admonester. Il n'y en a pas tant que ça. Et les admonester éventuellement en public. Il y en a un, par exemple, c'est l'Assemblée générale des actionnaires. Je peux vous raconter, moi, puisque je suis actionnaire, j'ai une action LVMH, bien sûr, vous l'avez compris. Je surveille de près les activités de groupe, donc je reçois la lettre des actionnaires tous les trimestres, et la revue Aparté, qui est une revue d'art, qui met Modigliani en couverture avec la tête de Bernard Arnault en page 2, parce que LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, c'est le premier groupe de luxe au monde, voilà.
Donc, comment je suis devenu actionnaire de LVMH? Je suis devenu actionnaire parce que je me baladais dans le nord de la France, c'était au moment du traité constitutionnel européen d'ailleurs, et je me suis retrouvé dans une boîte qui s'appelait ECCE, entreprise de confection et commercialisation européenne, près de Maubeuge, où je suis tombé sur une dame qui s'appelle Marie-Hélène Bourlard. Je cite son nom parce qu'il y a comme ça un certain nombre de héros et héroïnes anonymes dans des entreprises en France qui se bagarrent tous les jours, et là elle avait affronté une délocalisation qui était la décision de... Ils fabriquaient des costumes Kenzo. Un costume Kenzo, en sortie d'usine, ça valait 80 euros, matière première et main d'œuvre tout confondu, à Poix du Nord, près de Maubeuge. C'était vendu 990 euros dans les magasins Kenzo. On allait vérifier avec les ouvrières, rue du Louvre, à Paris. Bon, entre 80 et 990 euros, on va dire que ça laisse une marge appréciable, mais encore insuffisante, puisque la direction de LVMH avait calculé qu'en faisant fabriquer le même costume, non plus à Poix du Nord, en Pologne, mais non pour la Poix du Nord près de Maubeuge, mais à Katowice en Pologne, on passerait de 80 euros à 40 euros. Vous voyez, donc aussitôt le calcul effectué, il restait à mettre en œuvre la solution industrielle comme ICOS. Bon, Marie-Hélène Bourlard, elle n'arrêtait pas de s'en prendre au patron du sous-traitant qui s'appelait, je ne sais plus, Lucien Deveau. Voilà, il s'appelait Lucien Deveau. Vous connaissez Lucien Deveau? Non. Moi, personne ne connaît Lucien Deveau. Et je lui dis, mais alors, ça ne sert à rien de t'en prendre à Lucien Deveau. Personne ne le connaît, ça n'a pas marché ton histoire. Regarde ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, tu as le donneur d'ordre, c'est Bernard Arnault, c'est LVMH, premier groupe de luxe au monde, première fortune d'Europe. Si tu te mets à cogner sur lui, à mon avis, il va pas trop apprécier. Oui, mais comment on fait? Bon, moi, j'avais rencontré un petit actionnaire peu de temps auparavant qui m'avait dit qu'avec une action, on arrivait à entrer en assemblée générale et que là, normalement, on avait le droit de poser autant de questions qu'on voulait. Ils étaient obligés de nous donner la parole. C'était dans les textes de loi et puis tout ça. Sinon, on pouvait faire annuler l'assemblée générale. Donc, je lui ai dit, ben voilà, il y a une solution. Allons-y, je prends une action. Elle passe à la poste. Et la postière qui la connaissait, Parti communiste et puis tout ça depuis. Puis les années 60, et puis la CGT, sa carte CGT imprimée sur le front, vous voyez. Bon, elle dit, mais qu'est-ce qui vous prend, Mme Bourlard? Ah bon, tout le monde a bien le droit de s'enranger dans la vie, quoi. Bon, donc, elle prend son action, on se retrouve en Assemblée Générale, et ils ne veulent pas nous donner la parole. Enfin, ils ne veulent pas. C'est qu'il y a trop de personnes qui veulent la prendre, donc pour que l'Assemblée Générale elle, se termine. Bon, Marianne, moi, je suis plutôt du genre, il y a 3000 personnes, on est au carrousel du Louvre, c'est blindé de monde. Il y a des écrans géants, on voit même pas Bernard Arnault, bien qu'il est sur les écrans géants, on le voit même pas sur les écrans géants, tellement il y a de monde dans ce truc. Moi, je me vois mal aller mettre le bazar comme ça et tout ça. Bon, je me sens un peu mal à l'aise. Vous savez, c'est quand même dans le rapport de force, là, devant 3000 petits actionnaires, on sent pas très. Bon, il y a les vigiles, il y a tout ça. Bon, elle dit si, on y va. Elle fonce devant, elle fonce sur Bernard Arnault et elle commence à lui dire est-ce que vous êtes prêt à faire moins de bénéfices pour re-signer un nouveau contrat avec ECCE pour garder la production française? Parce que c'est 147 salariés qui vont être dehors. Alors là, Bernard Arnault répond, elle crie, elle n'a pas de micro. Donc elle crie très fort. Lui, en revanche, il est très calme, il a tous les micros. Je suis désolé des problèmes que ça peut poser aux personnes. Vous voyez, il est plein de compassion, il est désolé. Mais le problème de fond, c'est la différence de coût de revient pour un certain nombre de métiers, dont la confection entre la France et nos voisins d'Europe. Bon, moi, au fond, j'étais assez d'accord avec Bernard Arnault. Je pense que c'est logique, effectivement. Voilà, c'est moins cher là-bas. Bon, ben voilà, il fait comme ça, c'est moins cher. Bon, mais ça, c'est le genre d'argument économique qui ne convainc pas complètement Marie-Hélène Bourlard, qui donc continue à lui hurler dessus. Vous continuez à être délocalisé dans les pays de l'Est. Il y a 147 salariés qui sont là. J'aimerais que vous les voyiez, que vous osiez les voir là, dehors, en face, et leur dire « je ne veux plus travailler avec vous ». Bernard Arnault, il ne sort pas de la salle. Hein. C'est triste. Est-ce que Kenzo doit être le seul sur le marché international à payer ses costumes le double du prix que payent ses concurrents? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'actionnaire de LVMH? Alors moi, je ne suis pas responsable, si vous voulez, des problèmes qui sont structurels à l'évolution de cette mondialisation, de cette européanisation. Bon, la scène continue comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'avais fait venir une autre déléguée de la Samaritaine. Moi, j'avais un copain qui était assez grand et qui était plus âgé que moi, qui pouvait passer pour un député. Enfin, on a improvisé ça sur le coup, parce que sinon, on se faisait jeter manu militari. Mais quand je lui ai dit que le gars était député et que moi, j'étais son assistant, d'un seul coup, les vigiles, ils ont fait un pas en arrière et ils ont commencé à faire gaffe. Bon, voilà un peu. Bon, et finalement, il y a eu, on va dire, une amélioration du plan social. C'est pas l'idéal, mais il y a eu un certain nombre d'emplois qui ont été conservés. Donc, ayant vu ça, je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme truc. La confrontation du capital et du travail en direct, ça a son charme. L'année d'après, on est retourné en AG de casino. Alors, casino, Jean-Charles Naouri étant le financier qui a libéralisé la finance en France sous l'ère Bérégovoy dans les années 80, Bérégovoy étant ministre de l'économie,
Ensuite, il avait fermé Moulinex. Et puis, enfin, là, il maltraitait des gérants de petits casinos. Donc, on a rassemblé tous les mécontents. Et puis, on allait le prendre par surprise. Il a fui à la fin de l'Assemblée générale parce qu'il n'était pas content. Il est parti en claquant la porte. Et puis, tout ça, ça veut dire que lors de sa fête à lui, l'Assemblée générale, c'est quand même leur fête, on n'était pourtant qu'une petite dizaine. Et on avait réussi à le mettre sur la défensive. À tel point, il a tellement été sur la défensive qu'il nous a fait un procès, enfin un à France Inter et un à Fakir, que finalement il a abandonné en cours de route. Pourquoi ? Parce qu'on y est retourné l'année d'après. Alors là, il n'y avait plus d'effet de surprise. C'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on y arrive par effet de surprise. Il ne faut pas que ça soit publiquement annoncé, parce que là, il y avait un vigile tous les 3 mètres. Et entre les vigiles, il y avait des huissiers avec des caméras qui filmaient tout ce qu'on faisait. Donc ça rendait quand même nos mouvements un petit peu plus compliqués. On avait assuré un petit peu de pagaille. Moi, je suis sorti de là en disant, bon, on a perdu, quoi. Ils avaient vraiment tout été verrouillé. Donc on a eu beau chanter une internationale adaptée pour les petits actionnaires. Ça cafouillait. Mais néanmoins, ils se sont sentis merdeux. Et ils ont abandonné notamment les procès. Ils ont fait des offres à un certain nombre de petits gérants et tout ça. Bon. Donc là, pour nous, maintenant, ça fait 3 fois qu'on l'a fait. De manière microscopique. Il s'agit pas de le généraliser, mais que les prochaines actions, on ait davantage le rapport de force en notre faveur, qu'on arrive à avoir l'effet de surprise et le rapport de force, c'est-à-dire qu'il y ait plus de petits actionnaires qui se trouvent à l'intérieur de l'Assemblée générale. Et donc, c'est là que je compte sur vous. Là, on est en train d'organiser pour qu'effectivement, on soit une cinquantaine, une centaine, parce que vous savez, s'il y a un groupe de 50 ou 100 personnes qui sont déterminées et qui savent ce qu'ils veulent faire dans une assemblée comme celle-là, elles l'emportent sur le lot des oscillants, quoi. Donc, je vais, ceux qui veulent, ceux que ça intéresse de devenir actionnaires, alors pourquoi on commence la campagne en janvier ? Alors, est-ce que vous allez gagner ou perdre de l'argent ? En fait, c'est la seule question qui vous intéresse. Si, je sais. Alors... Acheter une action et revendre une action, ça coûte des sous. Il vaut mieux les acheter par paquet de 100, vous voyez ? Mais c'est bon, voilà. Donc, vous allez perdre des sous. Donc, a priori, vous allez perdre un petit peu. Mais en vérité, vous allez y gagner parce que le jour de l'Assemblée générale, ils font des cadeaux. La première année, chez LVMH, on a eu le droit à une petite bouteille de champagne, moitié Chandon, c'est quand même pas mal. Et chez Casino, 2 années d'affilée, on a eu le droit à des bons d'achat de 25 euros, vous voyez ? Pour aller dans les petits casinos. Donc, de toute façon... ça sera pour vous une opération rentable. J'insiste sur ce point. Voilà, il y a déjà un preneur. Je vous assure que j'ai jamais été en offrande au grand capital jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je vous assure que ils ont pas eu le sentiment que... Ouais, bah très bien. Bon, moi, je dois dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, il y a un plaisir que je n'ai pas face à un ordinateur, c'est la gueule défaite de Jean-Charles Nourry ou Bernard Arnault. Et ça, c'est une satisfaction que, même des années après, je continue à porter avec un sourire, non pas de martyr, mais de réjoui. Vous voyez ?
Oui, vous n'avez pas de micro. On va juste laisser François Ruffin finir ce qu'il avait commencé à expliquer.
Et là, il y a
Je ne sais pas si François voulait finir sur le SIAG.
Les papiers sont là pour ceux qui veulent commencer à devenir actionnaire aujourd'hui. Si je peux entamer votre conversion au grand capital, les papiers sont là. Et donc, nous, dans les semaines qui viennent, on vous enverra les infos sur les AG de manière postale, mais sur les AG qui sont choisis et sur le moment. Voilà. Sur les moments où elles se dérouleront.
Il faut juste savoir que c'est une feuille de renseignement pour ensuite que François Ruffin et le SIAG vous expliquent la démarche pour y adhérer. Je vous propose de prendre une dernière série de questions, 4 ou 5 maxi, parce qu'après, on a déjà l'Agora va fermer. Après, on a la galette. On boit un coup. J'espère que vous resterez nombreux. Et puis, il y a François qui rentre dans le Nord. Je suis désolé, j'ai trouvé que ça. Je dois avouer que... Il y avait une première question là, et puis on continue.
Oui, vous n'avez pas parlé du front de gauche. Alors en fait la question c'était parce que là j'ai vu passer une note sur le vote ouvrier et on voit que le front de gauche n'a pas du tout pénétré le vote ouvrier. Et ça me ramène toujours à mon leitmotiv hein, sur l'euro, parce que par ailleurs, il y a des études qui sont faites et on voit très bien que les ouvriers sont très très réticents à l'euro. Enfin, c'est pareil. Et d'ailleurs, pour les jeunes, c'est pareil. Hein, les jeunes et les ouvriers. Et c'est vraiment le point de clivage en fait essentiel. C'est le point de clivage politique essentiel, l'intégration européenne, l'euro. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas fuir ce débat-là. Et je pense qu'il faut, moi c'est mon hypothèse, hein, peut-être que je me trompe, mais il me semble que investir sur la question de l'euro, c'est-à-dire sortir de l'euro, ça sera efficace politiquement, en particulier vis-à-vis des classes populaires. Voilà, donc un peu de la manière dont François Ruffin avait travaillé sur le thème du protectionnisme. Je pense qu'il avait eu beaucoup de réticence vis-à-vis de la petite bourgeoisie, alors que c'était un thème populaire parmi les classes populaires. Je pense qu'il devrait faire le même travail vis-à-vis de l'euro. Il aura la même réticence vis-à-vis de la petite bourgeoisie vis-à-vis de ce thème-là. Mais par contre, c'est bénéfique. Ça sera porteur parmi les classes populaires. Et je pense que le Front de Gauche doit faire ce pas-là, évidemment, quitte à s'allier d'une partie de la petite bourgeoisie.
Bonjour. Moi, j'ai plusieurs questions. En tant que journaliste, malheureusement, je ne connaissais pas bien ni vous-même ni vos émissions, mais dans votre démarche, pourquoi notamment ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes n'est pas répercuté par les médias, alors que, par exemple, on entend beaucoup parler de la manifestation de demain sur le mariage pour tous. Alors que la semaine dernière, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait 60 000 personnes dans les bois pour essayer de penser à un monde différent. Et ils sont en train, justement, depuis quelques temps, d'essayer de penser autrement, avec notamment l'agroécologie, des choses comme ça. Pour ce qui est au niveau de l'argent, ce qui me choque dans les discussions qu'on a, c'est qu'en fait, on est des êtres humains, on est asservis par l'argent. Parce qu'on part de sortir de l'euro, mais est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de l'argent et redevenir humain et changer complètement de système, parce que là, j'entends bien ce que vous dites, c'est très bien, puisqu'on essaie de résister à un système qui nous dépasse et qui nous oppresse, mais au lieu de chercher des solutions pour s'adapter à ce système qui est complètement injuste, pourquoi carrément pas envisager une sortie de système, enfin un système différent. Et notamment, l'austérité, c'est un mot pas joli et pas agréable. Voilà, la sobriété heureuse proposée par Pierre Rabhi notamment, qui est un agriculteur. Voilà. Il y a plein de choses qui sont à relier, notamment les indignés. Par exemple, les médias n'ont pas beaucoup relayé les indignés là, en 2011, parce que pour répondre au monsieur, en Grèce, en Espagne, je connais un peu l'Espagne, en Grèce, en Espagne, au Portugal, les indignés, il y a beaucoup d'événements actuellement encore. Beaucoup de gens qui essaient de se concerter, ils ont été oppressés par la police. Mais donc il y a beaucoup de choses. Et au niveau des médias, ça ne se retranscrit pas. Il y a un manque d'informations. Alors est-ce que les médias ont peur d'aller sur ce terrain-là ? J'imagine que oui, puisque ne serait-ce que la comparaison entre la manifestation de Notre-Dame-des-Landes et la manifestation de Paris demain, on nous rabâche les oreilles avec ça pour demain, alors que pour Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas qui a entendu parler du concert de la semaine dernière à Notre-Dame-des-Landes, qui a réuni 60 000 personnes. Voilà, merci. Mais bon, bref, en tout cas, pour vous dire que peut-être que rien qu'au niveau des médias, l'information devrait circuler autrement. Et est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes sensible à la démarche de changer le système dans le sens de ne plus passer même par, par l'élection, puisque quelque part, vous cautionnez les élections. Voilà. Et est-ce qu'il ne faudrait pas relancer la démocratie plutôt que la croissance? Voilà, petite dernière question. Merci.
Oui, alors moi j'avais un commentaire qui est relatif à ce qu'avait dit une dame du fond sur les banques. C'est que là, en ce moment, il y a un projet de loi qui est discuté au Parlement sur la réforme bancaire. Et ça va être voté en février. Et du coup, bah, il se trouve que ce qui est proposé, bon, déjà je ne suis pas technicien de la banque, donc je ne pourrais pas forcément dire, mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait à la hauteur. Disons que le critère choisi pour la séparation des activités bancaires est très flou parce qu'on envisage ce qui est utile ou non à l'économie, donc c'est quand même très subjectif. Et moi, à mon avis, ça c'est un des rendez-vous, en fait, ça devrait être un des rendez-vous des forces qui s'intéressent à ces questions-là, en fait. Et le problème, c'est que c'est vrai que moi je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et même un type comme Mélenchon, quand je l'entends dans les médias, bah, disons... Bon, j'ai pas le sentiment que c'est l'heure pour lui de faire quelque chose là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que, enfin bon, en gros, c'est ce que propose le Front de Gauche, c'est la séparation des banques de dépôt des banques d'affaires. Ce qui me semble intelligent.
Oui, je voulais savoir, on parle de sortir de l'euro. Je voulais savoir si on revient au franc. On dit qu'on veut sortir de l'euro. Est-ce qu'on revient au franc ?
Il veut pas parler de la sortie de l'euro, François Ruffin.
Oui, bonjour, je m'appelle Romain Tréposé. Moi, je ne suis pas du Front de Gauche, je suis militant du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Mais finalement, tout cela a peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la multitude, je pense, de choses, de propositions, l'attention sur Notre-Dame-des-Landes, la volonté ou l'idée de créer une banque locale. Sur Nanterre, il y a un truc qui s'appelle Séan, que beaucoup ici doivent connaître. Il y a des AMAP. Voilà. Moi, je suis à fond pour tout ça, parce que c'est de la réappropriation par nous, par les citoyens, de nos vies quotidiennes. Et je pense que dès aujourd'hui, on bâtit le monde que j'espère, le monde de demain, dans lequel on aura réussi à arracher le pouvoir que aujourd'hui la bourgeoisie s'arroge. Simplement, toutes ces petites luttes nous laissent finalement désemparés face aux décisions politiques majeures, hein, face aux grandes décisions. C'est encore Bernard Arnault qui commande. Alors, je suis bien d'accord qu'il peut se barrer. Je suis bien d'accord que tous les capitalistes peuvent se barrer. Depuis que l'argent qu'on échange, ce n'est plus des pièces d'or ou des pièces d'argent, mais c'est uniquement ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire un équivalent, il est bien clair que les richesses, ce sont les biens, ce sont les services que nous produisons, nous, et non pas eux. Donc ils peuvent bien partir au fin fond de la Russie, se faire offrir des datchas ou aller aux États-Unis. Ils n'emporteront pas le capital, le vrai capital, les moyens de production. Mais cette question de réappropriation des moyens de production, elle se pose vraiment au travers d'échéances politiques, au travers d'actes très importants. Alors il y a un petit débat là qui a été amorcé sur la question de sortie de l'euro. Est-ce que c'est mieux de se battre pour la sortie de l'euro ou est-ce que c'est... De toute façon, si on se bat pour la sortie de l'euro, on voit bien que c'est quelque chose, ou la sortie des critères de Maastricht, etc. On voit que les niveaux d'affrontement sont extrêmement importants. Ça nous met face à la bourgeoisie en frontal. Alors est-ce que c'est malin, pas malin de demander la sortie de l'euro, est-ce que ça va développer le chauvinisme et finalement favoriser l'extrême droite? C'est des choses qui peuvent être débattues. Par contre, la nationalisation des biens de production, qui a été évoquée par mon camarade Jacques tout à l'heure, la nationalisation pas au sens où c'est provisoire et puis on les rembourse, pas au sens où on les fait passer entre les mains de technocrates qui vont être exactement comme les bourgeois, mais au sens où nous, les travailleurs, on va les gérer, les diriger nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Alors, bon, pour le NPA, on a une revendication en matière de finances. Hein. On propose plutôt la collectivisation, la nationalisation de l'ensemble du secteur financier. Pas seulement d'une partie, parce que ça veut dire qu'on continuera à être en opposition entre un secteur nationalisé et un secteur privatisé. Et du coup, on connaît le système, le secteur nationalisé serait obligé d'adopter les mêmes critères. Non, on propose tout simplement la nationalisation de manière à ce que le crédit sur l'investissement, il se porte exclusivement sur des investissements qui ne soient pas générateurs de licenciements et qui soient producteurs de produits qui soient socialement utiles aussi. C'est aussi un critère de l'investissement, c'est qu'ils soient socialement utiles.
Merci. Donc, c'était le programme du NPA. On va redonner la parole à François une dernière fois. Ce n'est pas forcément à la fin du débat parce qu'on boit un coup derrière. Donc si vous voulez... Venir le voir en vrai, lui parler et tout, il sera là. Il sera pas très loin des bouteilles de cidre, à mon avis. Je vous reprécise juste aussi que vous avez à la sortie une table avec plein de documentation sur Attac, sur les sujets dont on a parlé, quelques petits livres, il y a pas mal de choses gratuites, il y en a aussi que vous pouvez acheter. Idem, vous avez une table avec les livres de François Ruffin, quelques numéros de Fakir, je crois que c'est deux pour le prix d'un aujourd'hui. Voilà. Et donc je repasse la parole. Jean-Louis Michniak s'est signalé, donc président de Data 92. Je le remercie d'être là, tout comme Eric, l'ancien président Data 92. Et juste par rapport aux élus, voilà, il y a aussi Marc Becquet qui est donc élu municipal d'opposition à Rueil. Il y a évidemment des bulletins d'adhésion pour Attac et pour le SIAG. J'ai vu aussi, je crois, quelque part Madame Sylvie Cabasso qui est maire adjointe aux associations à Nanterre. Je remercie, c'est pas juste pour remercier, c'est que j'estime que c'est extrêmement important que les élus participent aussi à ce genre de réunion, parce que c'est aussi là que se déroule la vie citoyenne. Je passe la parole à François pour la dernière fois.
Oui, alors ça va être vague. D'abord, je vais quand même commencer par une page de pub. Si vous voulez qu'on continue à produire des idées et qu'on s'efforce de les diffuser, nous ne vivons, et je ne parle pas que de Fakir, mais éventuellement d'un certain nombre de films que j'ai déposés sur la table derrière, nous ne vivons que grâce à vous pour l'instant. Donc j'espère que vous continuerez à être nombreux à nous faire vivre, sinon la production qu'on représente est amenée à disparaître. Donc je compte sur vous à la sortie aussi. Ensuite, oui. Non. Est-ce que je suis sur Facebook? Non, vous êtes informé, je ne suis pas sur Facebook. Est-ce que le journal est sur Facebook? Oui, il doit y avoir quelqu'un qui tient un compte. Ouais. Ah, le journal, oui, il me semble qu'il y a quelqu'un, mais il y a des trucs que je m'applique à ne pas les comprendre. Facebook et Twitter, par exemple. Non, mais pour une raison qui est d'une raison organisationnelle, c'est que quand dans une petite organisation, vous avez fini par comprendre un truc, à un moment ou un autre, ça finit toujours par retomber sur vous de le faire. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Si jamais j'ai compris comment fonctionne Facebook, un jour où il va y avoir des trucs à mettre sur Facebook, on va me le demander. Tandis que tant que je ne sais pas comment ça fonctionne, il n'y a personne qui me demandera de le mettre. Vous voyez ? Sur Facebook ? À ne pas comprendre, oui. Voilà. Non, juste pour terminer le débat sur un point politique un peu moins commercial. De manière générale, je pense que si jamais l'Europe continue à s'enfoncer dans l'austérité, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a la nécessité que dans ce tunnel, à un moment, il y a une lumière qui s'allume. Je ne sais pas si elle s'allumera en Grèce, au Portugal, en Italie, en France. Bon, elle s'est allumée en Islande, mais c'était qu'une petite veilleuse en dehors de l'Union européenne, donc elle n'a manifestement pas fait assez d'étincelles. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière, entre guillemets ? Je relisais tout à l'heure un propos de Roosevelt,
Bon, il y a le propos de Danton, hein, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et je pense que si jamais on continue à s'enfoncer dans cette crise, à un moment, les solutions, elles doivent venir de l'audace et non pas de la résignation. Mais il y a ce propos tout simple de Roosevelt en 1932, donc en pleine crise. Le pays réclame, et si je ne me méprends pas son tempérament, il l'exige, des expériences hardies et continues. C'est le bon sens de choisir une méthode et de l'essayer. Si elle échoue, admettez-le franchement, essayez-en une autre. Mais par-dessus tout, il faut essayer quelque chose. On est dans un moment où, au contraire, on n'essaye rien. Et donc, essayer, ça veut dire mener des politiques hétérodoxes. Mener des politiques hétérodoxes sur le terrain éventuellement des nationalisations, du combat sur le terrain de la monnaie, sur le terrain du protectionnisme, sur le terrain des appartenances, à qui appartiennent les banques, et ainsi de suite. Mais il y a aujourd'hui pour moi, au présent, compte tenu de la situation sociale, mais il y aura la nécessité d'essayer quelque chose. Et là, il y a dans la gauche un devoir d'expérience. Je dis pas, je ne parle même pas d'expérience socialiste et ainsi de suite, mais il y a un devoir d'essayer quelque chose. Et c'est aujourd'hui ce qu'on n'essaye pas. Alors, j'ai bien conscience, je ne réponds pas donc à la totalité des remarques, hein, de la femme, mais j'ai bien conscience d'intervenir aujourd'hui dans un moment creux de l'histoire, dans un temps de recul où on a plutôt l'impression que la vague, elle revient vers nous. Il y a un an, bon, monsieur n'appartient pas au front de gauche, mais il pouvait y avoir, moi j'ai eu un enthousiasme modéré pour ça, parce que je voyais bien que ça n'allait pas monter aussi haut qu'un certain nombre de militants espéraient que ça monte, cette vague. Mais enfin bon, il y avait un certain enthousiasme politique derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, derrière le front de gauche. Moi, j'ai vu des jeunes arriver avec la politique, avec enthousiasme à ce moment-là. Et bon, c'était assez stimulant. On voit bien qu'on n'est plus dans le même temps de l'histoire. Je voudrais simplement vous rappeler les propos de mon héros personnel, un monsieur qui s'appelle Maurice Criégel-Valdrimont. Qui est, pour vous le replacer, qui est l'un des libérateurs de Paris en août 1944, quand les Allemands, quand le maréchal von Choltitz s'est fait prisonnier et que les Allemands capitulent à Paris. Il y a le général Leclerc qui est sur le tank et qui fait défiler von Choltitz dans les rues de Paris, où évidemment la foule est en liesse. Et au fond, on aperçoit un petit monsieur à lunettes sur la Jeep, dans une photo qui est historique, c'est Maurice Criégel-Valdrimont. Représentant qui est là au titre de représentant des forces françaises de l'intérieur. Donc, que me dit Criégel ? Il est mort maintenant, hein, malheureusement. Je lui dis, écoutez, moi j'ai 30 ans, à 30 ans vous libériez Paris. Moi, franchement, il dit, déjà on s'emmerde moins qu'on s'est emmerdé. Et il me semble que c'est vrai. Au fond, on vit des années politiques qui sont quand même intéressantes, où il y a des choses qui se passent. Pour ceux qui ont vécu les années 90, quand l'autre, Fukuyama, il annonçait la fin de l'histoire, il y avait quelque chose de pesant de ce côté-là, et on avait vraiment l'impression qu'ils avaient réussi à graver le libéralisme dans le marbre pour effectivement un paquet d'années. Là, il y a des choses qui bougent. Ça ne bouge pas forcément dans le sens qu'on souhaite, mais déjà, il y a des choses qui bougent. Mais surtout, que me dit Criégel ? Il dit, mais imagine-toi en 1934, on fait une première manif avec les copains de la CGT contre les fascistes, parce que les fascistes sont au bord de renverser la République. Pourtant, c'est une République pourrie, corrompue, qu'on n'aime pas trop. Mais on y va, on descend dans la rue pour la défendre. Imagine-toi si j'avais dit à mes copains à ce moment-là, dans deux ans, il y aura le Front populaire, on aura les 40 heures et les congés payés. Mais ils m'auraient ri au nez. Mais ça, c'est rien. Imagine-toi. En 1943, je suis en prison. À mes côtés, il y a Raymond Aubrac. On est à neuf dans une cellule qui est toute petite. Il y a Serge Ravanel. La cellule est tellement petite que quand l'un d'entre nous veut se retourner, il faut que tous les autres se retournent aussi. Mais si j'avais dit à mes copains, dans deux ans, même pas, dans un an et quelques mois, c'était avant Stalingrad, les Américains auront libéré la France, nous aurons libéré Paris nous-mêmes, nous mettrons en place un vaste plan de sécurité sociale, nous fonderons les retraites, nous nationaliserons des entreprises. Mais c'est même pas qu'ils m'auraient réuni cette fois-ci. Ils m'auraient envoyé en hôpital psychiatrique à peine sorti de la prison. Mais il me dit, toutes ces choses-là, elles ont été possibles parce que les hommes l'ont voulu et on su ce qu'ils voulaient. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.